Merci beaucoup, Fresneville. Vous pouvez vous asseoir. Je crois qu'il était dit une fois que je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Bon, nous regrettons de ne pas avoir de place ou de place assise pour tous ceux qui sont présents. Et peut-être que le nombre de personnes va encore augmenter au cours de la semaine à venir lorsqu'elles entendront parler des réunions. Mais la raison de cette occasion spéciale, c'est afin que nous... Le Saint-Esprit m'a mis à cœur cet avertissement, la conviction que l'Église, en ce jour-ci, doit recevoir ce message. En effet, je crois que ce sont là les messages les plus remarquables de la Bible, parce qu'ils révèlent Christ dans son Église à l'heure actuelle. En effet, personne ne peut avoir la foi, ni savoir ce qu'il fait, ni où il va, s'il n'a pas quelque chose sur lequel baser ses réflexions et sa foi. Par conséquent, si l'Écriture nous a révélé Christ en ces derniers jours, ainsi que la condition de cette époque-ci, il nous serait profitable de la sonder et de voir où nous en sommes. Donc, nous regrettons que notre Église ne soit pas plus spacieuse. Nous espérons qu'elle le sera un jour. Particulièrement ces 4 derniers jours, en étudiant à ce sujet la partie historique du livre de l'Apocalypse, je suis tombé sur des choses que je n'aurais jamais pensé être vraiment arrivées. Et cela a mis dans mon cœur le désir, une fois que j'aurai terminé ces 7 âges de l'Église, d'avoir une autre série semblable pour présenter ensemble la vraie Église et la fausse Église à travers l'histoire et l'Écriture. Comme la foi où, dans un sermon, j'ai essayé de prendre la vraie vigne et la fausse vigne qu'on trouve dans la Bible. Et nous allons essayer de nous procurer des chaises. Je pense aux gens qui cherchent un siège. Nous allons essayer de nous procurer des chaises supplémentaires, essayer de remplir les pièces ici derrière et tout, et en ajouter encore quelques-unes tout autour, afin que nous puissions asseoir quelques personnes de plus pendant les services. Maintenant, à ce propos, j'aimerais demander à chacun de vous qui êtes vraiment intéressé par ces choses, de venir chaque fois que nous allons expliquer cela. Et je n'entreprendrai pas ou ne penserai pas entreprendrai ce glorieux livre de l'Apocalypse de 7 âges de l'Église. Mais je compte strictement sur Dieu pour qu'il me le révèle quand je l'aborderai. Les faits historiques qui sont pris chez les historiens les plus éminents que je connaisse. J'ai dans mon bureau, en ce moment, environ 5 ou 6 commentaires. Les 2 Babylone d'Islop, le livre des martyrs de Fox, et d'autres très bons livres, comme le Concile Avonicé, en 4 volumes environ, de près de 400 pages chacun. Et puis, le Concile de Nicée, et tous les récits historiques qu'on peut trouver. C'est que, après ceci, à partir des bandes magnétiques, nous allons écrire un commentaire sur les 7 âges de l'Église, qui sera envoyé partout où nous pourrons dans le monde, parce que nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes au temps de la fin. Je n'avais jamais saisi cela aussi clairement dans mon cœur, jusqu'à la dernière élection. Alors j'ai vu où nous en étions. C'est alors que le Saint-Esprit a commencé à me révéler d'avertir les gens et de situer ces choses. Et je ne peux pas le faire à fond comme ça, dans une église. Et puis, si je me mettais simplement à écrire ce livre, il me semble qu'en allant à la chair, là où l'inspiration du Saint-Esprit qu'il y a parmi les chrétiens peut venir sur moi pour m'aider, alors j'aurai plus de facilité ensuite pour écrire ce livre, en reprenant cela de la bande, parce que là, nous en recevrions l'inspiration. Les livres, bien sûr, seront un peu remaniés, parce qu'ici, on inclut des choses qu'on ne pourrait pas mettre dans le livre. Et alors, et on prend trop de temps en se répétant, moi en tout cas. Et alors, dans le livre, tout cela sera remanié. Mais on va essayer, autant que possible, de tout enregistrer sur bande. Or, chaque soir, les bandes, les livres et tout, les frères les auront juste là, à l'extérieur du bâtiment. Maintenant, il se peut que je n'y arrive pas chaque soir. Comme nous nous sommes proposés d'essayer, pour la gloire de Dieu, d'apporter ces 7 messages à l'Église, ou ces 7 âges de l'Église, en 7 soirs, en prenant un âge chaque soir. Ainsi, lundi soir, Éphèse, mardi soir, Smyrne, mercredi soir, Pergame, jeudi soir, Thyatire, vendredi soir, Sardes, et samedi soir, Philadelphie, et dimanche matin et dimanche soir, celui de Laodicée, l'âge de l'Église où nous vivons, en donnant l'histoire de l'Église originelle et les écrivains et les historiens et les anges de cet âge, et les messages, et tout le parcours de l'Église jusqu'à ce jour-ci. Et c'est étonnant de voir comment chaque prédiction de cette Écriture correspond parfaitement aux événements historiques, exactement, jusqu'à la pensée même. Cela m'a même tellement étonné que hier, à force de lire, mes yeux étaient comme gonflés. En sortant, j'ai dit à ma femme, « Je n'aurais jamais imaginé que ce soit ainsi. » Voyez, c'était tellement merveilleux. Et alors, il se peut que je n'arrive pas toujours à terminer en un soir. L'Église, le message à l'Église. Et si je ne peux pas terminer ce soir-là, je le ferai le lendemain matin à 10h. Ce sera annoncé chaque soir pour ceux qui veulent venir écouter la suite, parce que nous allons essayer de mettre ça sur bande. Donc, le matin, j'aurai les services de 10h à midi, pendant la journée, pour essayer d'apporter le reste du message, afin qu'il puisse le recevoir par la bande. Pas, nous avons annoncé qu'il n'y aurait pas de service de guérison, parce que nous essayons de rester dans le cadre de la parole prophétique de la Bible. Et puis, nous avons eu ici un service de guérison tout récemment. Puis, dès que ces services seront terminés, nous aurons alors de nouveau des services de guérison ici. Mais bon, je veux être vraiment clair. Ainsi, chacun s'en souviendra qu'ici, il se peut que cela tranche et écorche et nous secoue tous très fort. Mais je ne suis responsable de rien d'autre que de prêcher la parole. Voilà, c'est tout. Juste de m'en tenir strictement à la parole. Et il se peut que souvent, dans ces âges de l'Église, il se peut qu'il soit fait allusion à la dénomination de quelqu'un. Et si ça se produit, ce n'est pas dans le but de rudoyer. C'est seulement déclarer ce que l'Écriture dit et la révélation que j'en ai. Et si vous pensez que je me suis trompé à ce sujet, alors ne m'en veuillez pas. Priez simplement pour moi, afin que Dieu me montre ce qui est juste, parce que je veux vraiment marcher droit. Et puis, une autre chose, je suis conscient de la responsabilité que j'ai dans des réunions comme celle-ci, où j'enseigne les gens, car le Saint-Esprit me rendra responsable des paroles que je prononce à cette chair. Alors, vous voyez avec quelle solennité nous abordons ceci. Là, notre, j'aurais voulu le faire ailleurs, mais étant donné que c'est de l'enseignement, alors dans notre, là-bas, dans les réunions d'évangélisation, nous avons tous une idée ou un discernement, ou comme ça l'a été au cours de l'âge, et nous avons nos propres églises, et ce que nos églises nous ont enseigné, et ce que nous croyons. Nous, je n'aime pas aller dans l'église de quelqu'un d'autre, ou parmi des gens comme ça, et dire quelque chose de contraire à l'enseignement que les gens ont reçu. Car après tout, j'ai essayé de déclarer clairement qu'un, si quelqu'un est catholique et qu'il compte sur l'Église catholique pour son salut, il est perdu. S'il est baptiste, qu'il compte sur l'Église baptiste, il est perdu. Ou pentecôtiste, qu'il compte sur l'Église pentecôtiste pour être sauvé, il est perdu. Mais n'importe quelle Église. Mais si cet individu s'appuie strictement sur la foi dans l'œuvre achevée de Christ au calvaire, il est sauvé, peu m'importe l'Église dont il fait partie, parce que c'est par la foi que vous êtes sauvés, et ce, par la grâce. Bon, parfois, en faisant ces choses, je me mets à penser à mon petit bâtiment ici, que nous avons commencé à construire il y a bien des années, avec un tas de blocs de béton et autre chose. Et nous le considérons un peu comme un endroit sacré. D'une certaine manière, nous n'avons pas envie, pas vraiment envie de le voir changer, parce que c'est là que Dieu nous a rencontrés dès le début, quand nous n'avions même pas de plancher à l'intérieur. Mais voilà que maintenant, il devient vieux, et nous avons un projet de construction, pour que l'Église occupe tout l'espace ici. Alors, en attendant, je pense que lorsque je reviens du champ de mission, où je ne veux pas blesser les frères et où par les messages et tout, cela me donne le droit d'exprimer mon avis personnel de ma chair ici. Et alors, si vous dites, j'ai été enseigné un peu différemment, alors ici, nous invitons simplement tous ceux qui le veulent à venir. Vous voyez, il n'y a personne qui parraine cela ou quoi que ce soit. Ici, c'est le tabernacle. Et tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Venez tout simplement. Je vous invite donc à apporter votre Bible à chaque réunion, et aussi un crayon et du papier. Et maintenant, compte tenu de tous les commentaires et tout, je n'aurais pas pu apporter tous les livres. Alors, j'ai simplement écrit. Chaque fois, j'écris sur des feuilles ici, des petites notes tirées de l'histoire et des commentaires et tout, afin que je n'aie qu'à lire à partir des notes ici, plutôt que d'avoir le livre et d'en tourner les pages. Toutefois, quand il sera question de l'Écriture, nous utiliserons la Bible. Et alors, pour le commentaire, je donnerai des explications, ou concernant l'histoire, qui était l'historien qui a dit ça, et ainsi de suite. Alors, quand ce sera le moment de préparer le livre, là, on pourra alors tout taper au propre et tout faire correctement. Bon, nous ferons tout notre possible pour commencer tôt et sortir aussitôt que possible. Cela fera 8 jours de réunion, du dimanche au dimanche. Ce matin, je commence avec le chapitre 1 de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse. Et l'Apocalypse est divisé en 3 parties. Et c'est des 3 premiers chapitres que nous allons traiter pendant ces 8 jours. Alors, qu'un seul âge de l'Église pourrait nous prendre 1 mois. Mais nous devrons nous limiter au point important, comme on dit. Et puis, quand vous aurez le livre, ce sera plus détaillé. Donc, dans l'Apocalypse, les 3 premiers chapitres traitent de l'Église. Ensuite, l'Église disparaît. Nous ne la voyons plus jusqu'au temps de la fin. Apocalypse 1 à 3, c'est l'Église. Apocalypse 4 à 19, c'est Israël, une nation. Et 19 à 22, ce sont les deux ensemble. Et les fléaux, les avertissements, et ainsi de suite, à la fin. C'est divisé en 3 parties, voyez. Et nous prendrons les 3 premiers chapitres qui concernent l'Église et l'âge de l'Église dans lequel nous vivons. Bon, pour commencer, cela peut paraître un peu aride, parce qu'il faut que nous revenions en arrière pour poser un fondement. J'ai prié et étudié et fait tout ce que je pouvais pour essayer d'avoir la pensée du Saint-Esprit. Comment exposer ceci pour que les gens le voient et qu'en voyant, vous soyez éclairés et amenés à vous approcher de Christ, car nous sommes au temps de la fin. Et c'est tellement merveilleux, en étudiant l'histoire, de voir comment cette Église a débuté et comment elle s'est éloignée et ce qui est arrivé, et de voir cette petite semence de Dieu agir à travers chacun de ces âges, presque disparaître complètement à une certaine période. Bon, demain soir, nous allons commencer et nous aurons un schéma ici. Pas un schéma, mais un tableau noir, comme je veux enseigner ces choses en me servant d'un tableau noir. Je crois que le moniteur de l'école du dimanche, l'un d'entre eux, a un tableau noir. Je l'ai vu à l'arrière. Je vais demander au concierge de l'installer, de le placer ici devant, afin que je puisse utiliser ce tableau noir pour enseigner et écrire dessus, pour que cela soit bien clair pour vous. Vous pourrez dessiner ça sur votre feuille et tout, et bien saisir cela au fur et à mesure que nous l'apporterons. Mais je veux simplement dire ceci avant de commencer. de voir le commencement de l'âge de l'Église et de voir comment les apôtres, les doctrines et les choses qu'ils ont enseignées et les principes de la Bible. Puis, de voir cette Église vers le deuxième groupe d'apôtres, comment elle a commencé à décliner le vrai, le véritable enseignement. Au troisième groupe, elle s'éloigne vraiment. En arrivant au quatrième groupe, elle a décliné pour devenir tiède. L'Église a donné naissance à une Église tiède. Et alors, il y a une Église remplie de l'Esprit. Là, je dis ceci avec le respect le plus sacré à l'égard de la religion de chacun. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, la vraie, la véritable Église a été une Église pentecôtiste. C'est vrai, Dieu a préservé cette Église. Je me demande souvent, quand Jésus a fait cette remarque, qu'il a dit « Ne crains point, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Je me suis souvent demandé ce que cela voulait dire, mais maintenant je le comprends. La semaine dernière, nous avons eu une série de réunions à Shreveport, en Louisiane, les plus glorieuses réunions spirituelles auxquelles je sois allé de toute ma vie, à Shreveport. J'avais quelques jours de vacances et je suis allé dans le Kentucky avec frère Wood ici, l'un des diacres de l'église, ou plutôt des administrateurs, pour aller à la chasse. Nous sommes allés dans les bois. J'avais tiré le premier écureuil et j'ai dit, je vais simplement attendre parce que quelqu'un était passé par là avec des chiens. Et j'ai dit, je vais simplement attendre que les écureuils ressortent de leurs trous. Ils ont grimpé à toute vitesse dans les arbres, dans les trous, et là, ils sont cachés. Alors j'ai dit, quand ils ressortiront, je vais m'asseoir ici et attendre. Parce qu'il faisait vraiment froid. C'était un froid glacial. Mes oreilles brûlaient. Et, vous savez, un vent pénétrant soufflait dans les vallons. J'ai dit, je vais simplement attendre que les écureuils ressortent. J'étais à peine assis que le Saint-Esprit a dit, « Lève-toi et va à l'endroit que tu appelles le vallon du sportif. Là-bas, je parlerai avec toi. » Et je suis allé à cet endroit que j'avais surnommé le vallon du sportif. En effet, la raison pour laquelle j'avais donné moi-même des noms à ces vallons, c'était pour me repérer. Le vallon du sportif, c'était parce qu'ils avaient... Je suis allé là-bas et j'ai vu 16 écureuils sur un même arbre. J'ai tiré le nombre permis, j'ai laissé les autres là et je suis parti. C'est comme ça qu'il faut pratiquer le sport. Et donc, je l'appelle le vallon du sportif. Et lui m'a dit, l'endroit que tu appelles le vallon du sportif, pas que lui appelle ainsi, mais que moi j'appelle ainsi. Alors, je suis allé jusqu'au bout de ce vallon et me suis assis sous un chêne blanc. J'ai attendu environ une demi-heure et rien n'est arrivé. Je me suis couché par terre, me suis prosterné, j'ai tendu les mains. Alors, il m'a parlé. Et quand il l'a fait, les paroles qu'il m'a révélées, en rapport précisément avec le passage de l'Écriture que nous allons aborder ce matin, je n'avais jamais vu cela de toute ma vie. Et alors, quand je suis arrivé à Shreveport, en Louisiane, une femme qui a des dons, elle s'appelle Madame Schrader. Il y a bien des années, quand l'ange du Seigneur est venu me trouver à la rivière ici, la première fois, et qu'il est apparu dans cette lumière, et les paroles qu'il a prononcées là, 11 ans plus tard, quand je suis entré dans ce lieu de réunion, cette petite femme s'est levée, a parlé en langue et a interprété. C'était mot pour mot, exactement ce que cet ange avait dit. Et cette même petite femme, quand je suis entré dans le tabernacle là, ou l'endroit à Shreveport où nous étions, le Life Tabernacle, le Saint-Esprit a touché cette femme et elle a dit mot pour mot ce qu'il m'avait dit là-haut sur la colline. Ensuite, l'Esprit a commencé à agir et a donné l'interprétation, prédisant des choses par révélation, par prophétie, les choses qui arriveraient pendant la réunion du lendemain soir. Et cela n'a pas manqué d'arriver une seule fois. Avant cela, une petite femme s'est levée dans la réunion. Une baptiste venue là sans savoir ce qu'elle pourrait bien y faire. Elle était debout en pleine réunion et le Saint-Esprit est descendu sur elle et elle s'est mise à parler en langue. Une baptiste de la première église baptiste de Shreveport. Ensuite, elle ne savait pas ce qu'elle avait fait. Et alors, avant qu'elle ait pu dire quoi que ce soit, le Saint-Esprit en a donné l'interprétation. Il a dit, « Ainsi dit le Seigneur, d'ici 3 mois, l'Esprit de Moïse, d'Élie et de Christ sera à l'œuvre dans ce tabernacle. » C'est exactement ce qui est arrivé. un baptiste de Méridion, dans le Mississippi, alors qu'il posait la main sur son réfrigérateur pour y prendre quelque chose. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui et il a parlé en langue sans savoir ce qu'il faisait. Et avant qu'il puisse comprendre ce qu'il faisait, le Saint-Esprit a parlé en disant « Va à Shreveport, en Louisiane. Mon serviteur te dira ce qu'il faut faire. » Quand il est arrivé là, il a dit « Je ne comprends pas cela. Ce n'est jamais arrivé auparavant. Oh là là, nous vivons dans les derniers jours, juste avant la venue du Seigneur. Cette petite église a toujours été en minorité, les pentecôtistes. Je ne veux pas dire les pentecôtistes dénominationnels. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais les gens avec l'expérience pentecôtiste. La Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte est une expérience qui s'adresse à celui qui la veut. Catholique, juif, prosélyte, méthodiste, baptiste, que celui qui veut vienne. C'est une expérience que l'individu, Dieu ne traite pas avec une dénomination. Il ne traite pas non plus avec les gens des nations en tant que race ou peuple. Il traite avec les individus que celui qui veut. Qu'il soit blanc, noir, jaune, brun, méthodiste, baptiste, protestant, catholique, quoi qu'il soit, qu'il vienne, quiconque. Je suis tellement content qu'il ait fait ainsi. C'est comme la personne qui a dit une fois, je préférerais l'entendre dire ça plutôt que d'appeler mon nom, que William Branham vienne, parce qu'il pourrait y avoir plusieurs William Branham. Mais quand il a dit que celui, je sais que ça m'inclut, alors c'est comme ça qu'on peut tous se sentir, que celui qui veut, vienne. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent ici dans les hôtels et les motels, qui viennent du monde entier. Voyez, il y a ici des personnes de l'Irlande et de différents endroits qui attendent ces rendez-vous. Mais je ne peux pas m'en occuper pour le moment. Je veux donner mon temps pour ceci, vous comprenez. Quand je reviens de ces voyages, je reviens généralement pour m'occuper des gens à qui on a donné un rendez-vous. Mais en ce moment, nous devons mettre ça de côté à cause de ceci. Maintenant, juste une chose avant de commencer avec ce livre. Au commencement, il y avait une église pentecôtiste. Cette église pentecôtiste a avancé par la puissance de l'Esprit et a écrit un livre des actes. Le groupe qui suit, le deuxième, c'est là que l'église a commencé à se relâcher. L'église est devenue formaliste. Au deuxième âge de l'église, elle était vraiment formaliste. Mais cette petite semence de Pentecôte, la spirituelle, a poursuivi son chemin. Ensuite, elle est entrée dans une période, l'âge des ténèbres, qui a duré environ 1400 ans de sombres persécutions. Ce petit âge pentecôtiste a continué à vivre à travers cela. Comment il y a survécu, ne me demandez pas. C'était la main de Dieu, la seule chose qui ait pu le faire. En effet, ils les ont cloués à des poteaux, ils ont pris les hommes, les ont mis sur une souche, ont pris des chevilles de bois et les leur ont enfoncés dans les jambes. Et ils ont laissé les bêtes, des chiens, les dévorer de derrière, leur arracher les intestins avant même qu'ils ne meurent. Ils ont pris les femmes, leur ont coupé les seins en les cisaillant comme ça, leurs seins droits, se tenant là pendant que le sang coulait, jusqu'à ce que la vie les quitte. Ils enlevaient les bébés du corps des mères enceintes et sous leurs yeux, les donnaient en pâture aux chiens et aux cochons, prétendant que ça, c'est le christianisme. Mais la Bible dit, et Jésus a dit, « Il viendra un temps où ils vous tueront, croyant rendre un culte à Dieu. » Voyez ? Et maintenant, cette chose s'est glissée jusque dans un autre âge. Et finalement, elle est sortie. Puis nous remarquons, lorsque l'Église est sortie avec la réforme, elle s'est éloignée à partir de ce moment-là. Et elle s'est détournée de l'Esprit, et ainsi de suite, jusqu'à ce dernier âge, où elle est prête à s'unir et à former une image à la baie. Mais ce petit Esprit vivra dans le cœur des gens jusqu'à ce que Jésus vienne. Il doit en être ainsi. Gardez ça à l'esprit. Nous allons le dessiner sur le tableau, prendre l'histoire et tout, et vous montrer que c'est exactement comme ça. Je vous laisserai prendre l'histoire vous-même et la lire, voir ce que la Bible dit, et ensuite ce que l'histoire dit, voir comment cela se rejoint parfaitement. Oh, puissions-nous tous ne pas considérer ceci comme un simple exposé, mais puissions-nous prendre au sérieux les avertissements du Saint-Esprit, et prier jour et nuit, Ne laissez rien vous arrêter de prier. En avançant, nous allons faire ressortir la vie de ces grands hommes d'autrefois et les sacrifices qu'ils ont faits. Vous verrez que vous avez fait bien peu de choses. Parfois, cela me fait honte. Nous qui recherchons la facilité dans tout, alors que pour eux, tout était si dur. Ils allèrent ça et là, dit Paul dans Hébreux 11, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, persécutés et maltraités, dénués de tout. Quel poids aura notre témoignage à côté du leur? Comment tiendra-t-il à côté de ça? Nous qui recherchons le confort dans tout. Maintenant, par respect, avant d'ouvrir le livre, j'aimerais que nous tous, ceux qui le peuvent, nous nous levions un instant pour la prière. Maintenant, dans la sincérité de votre cœur, murmurez un mot de prière pour « Adieu ». Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tous les dons bons et parfaits, Seigneur, nous voudrions te demander premièrement de nous pardonner toute notre indifférence, nos péchés et nos offenses envers toi, ainsi que les uns envers les autres et envers nos semblables. Que ce moment de rassemblement ne serve pas qu'à l'édification de nos âmes à nous, mais qu'il serve à nous éclairer et à nous inspirer d'une manière telle que nous irons en parler à d'autres. Que cela soit un temps pour nous consacrer de nouveau, que nous soyons unis avec tout le corps de Christ et prêts pour l'enlèvement. Ô Dieu notre Père, pas par mes propres moyens, sachant que ton serviteur et tous les autres serviteurs, nous sommes incapables d'accomplir cette grande tâche. Étant conscient que de grands hommes dans le passé ont eu à cœur de révéler ceci ou d'apporter un commentaire sur la grande révélation, nous sommes alors conscients que, encore plus qu'eux, nous sommes incapables. Mais tu es celui qui nous suffit. Et je te prie, Père Céleste, de faire quelque chose de spécial pendant ces moments, que le Saint-Esprit ait la prééminence dans chaque cœur, circoncis les lèvres qui parlent et les oreilles qui écoutent. Et quand tout ceci sera terminé et que nous te consacrerons cela, puissions-nous franchir le seuil de cette maison en disant « C'était bon pour nous d'être ici. Le Saint-Esprit nous a parlé pendant que nous étions assis là. Et maintenant, nous sommes déterminés à faire tout ce que nous pouvons pendant que brillent les lumières du soir. Accorde-le, Seigneur. Puissent les hommes et les femmes, pendant cette réunion, retrouver une ardeur nouvelle. Puisses-tu susciter des gens qui parlent en langue, des gens qui interprètent les langues. Puisses-tu susciter des dons de prophétie. Suscite des prédicateurs, des pasteurs, des évangélistes et tout le reste, afin que l'Église soit édifiée. Suscite des missionnaires pour aller sur le champ de travail, là-bas, pour apporter ce glorieux évangile. Où que la parole aille, puisse-t-elle tomber dans une bonne terre, afin qu'elle produise au centuple, car nous croyons que nous sommes à la fin de l'âge. La fin de toutes choses est proche. Accorde ces choses, Père. Et par-dessus tout, Seigneur, en ce moment, aide-moi. J'ai des besoins, car je le demande en m'en remettant à toi pour ces services. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
People.
Dieu puissant, toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts, nous sommes tellement heureux de savoir que ton esprit demeure parmi nous. Il est toujours véridique, il ne dit jamais de mensonge. Et maintenant, Père, confirme ta parole davantage alors que nous la lisons pour ta gloire. Et que chaque cœur, comme tu l'as dit, soit préparé, prêt, car quelque chose va arriver. Il se peut que les gens reçoivent leur dernier avertissement pour se détourner des choses qu'ils font maintenant et pour prendre le bon chemin. Nous te remercions, ô Dieu Saint, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen.
Turning now to the book of the Revelation, first chapter.
Prenons maintenant le livre de l'Apocalypse, chapitre 1. Maintenant, le premier, je veux lire les trois premiers versets de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à son serviteur les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ pour tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, à propos de ceci, nous allons essayer maintenant de faire une petite analyse du livre, d'après l'histoire et les autres choses. Et chaque fois que vous me voyez me référer à des pages que j'ai écrites ici, ce sont des choses que j'ai prises dans des commentaires et autres. Bon, l'écrivain de ce livre, c'est Jean, l'apôtre Jean. Il écrit à la génération future. A. B. Cela s'adresse aux sept anges des sept périodes distinctes de l'âge chrétien, un âge qui s'étend de l'époque des apôtres à la venue du Seigneur. Et maintenant les âges arrivent les uns après les autres, chacun d'entre eux, de l'ascension de notre Seigneur jusqu'à son retour. Chaque âge de l'Église est décrit d'après sa condition spirituelle. E. Chaque âge de l'Église peut se reconnaître par les Écritures et par les paroles spirituelles qui lui sont adressées. Alors que l'Esprit parle, chaque âge peut se reconnaître. Chaque âge a produit la véritable vigne de Christ, la Vierge sage, et chaque âge a produit la vigne greffée, la Vierge folle. Les historiens sont d'accord qu'il s'agit bien de la vie de Jean. Jean a vécu ses dernières années dans la ville d'Éphèse, et c'est là qu'il est mort. Il était sur l'île de Patmos au moment où il a écrit ce livre, l'Apocalypse. Ce n'était pas l'histoire de sa vie, mais l'histoire de Christ dans les âges futurs. Voyez, c'était une prophétie. Pas la vie de Jean, pas la vie de Christ, mais la prophétie d'un âge à venir. Ce n'était pas ses paroles prophétiques, mais l'exaltation solennelle du Seigneur. Ce n'était pas la révélation de l'apôtre Jean, mais la révélation de Christ, le Seigneur. C'est le dernier livre du Nouveau Testament. Pourtant, il raconte le commencement et la fin de la dispensation de l'Évangile. Les biblistes sont d'accord là-dessus. Les lettres aux sept âges de l'Église ont été écrites de manière prophétique aux âges futurs. Paul a écrit sur la vie et la gloire des sept églises présentes à son époque. Jean a écrit sur la vie et la gloire des sept églises dans le futur. Jean s'adressait aux sept pasteurs ou messagers et plus directement à tous les chrétiens relevant de chacun de ces sept anges. Donc, ce livre de l'Apocalypse. Maintenant, nous allons en prendre une partie ce matin et une partie ce soir. Et nous allons essayer de sortir vers 11h, 11h30, quelque chose comme ça. Puis, nous recommencerons ce soir à 19h. Maintenant, le contenu de ce premier chapitre. Le verset 1, en fait, est explicite, puisque c'est la révélation de Jésus-Christ. Le verset 2, l'apôtre Jean est le scribe et le serviteur. Le verset 3, les bénédictions sont prononcées. Du verset 4 au verset 6, la salutation à l'Église. Le verset 7, l'annonce. Le verset 8, la divinité suprême de Jésus-Christ. Du verset 9 au verset 20, la vision de Patmos. Et aussi, les versets 14 et 15 décrivent les sept éléments de la gloire de sa personne. Oh, c'est beau quand on voit Christ dans les sept éléments de sa personne, les sept éléments qui constituent sa personne, dans sa glorieuse résurrection. Maintenant, le titre décrit le personnage, la révélation de Jésus-Christ. Pas la révélation de l'apôtre Jean, mais la révélation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, le mot grec pour « révélation », c'est « apocalypse », qui signifie « le dévoilement ». J'ai pris ce mot et fait des recherches. Il signifie « l'apocalypse », c'est comme un sculpteur qui a fait une grande statue, qu'il a recouverte d'un voile. Et après, il déchire ce voile et révèle ce qu'il y a derrière le voile. C'est un dévoilement. Et ce livre n'est pas tellement le dévoilement de la personne de Jésus-Christ. Certes, cela parle de sa divinité et des sept éléments de sa personne, et aussi des choses qu'il est, comme sacrificateur, roi, et ainsi de suite. Mais cela révèle ses œuvres futures, dont ses sept âges de l'Église à venir. Cela, quand notre Seigneur était sur terre, les disciples lui ont demandé, ils ont dit, « Maître, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et Jésus a dit, « Ce n'est pas à vous de connaître cette heure ou le temps. » Et personne ne le connaîtrait. Il a dit, « Même le Fils, à ce moment-là, ne le connaissait pas. » Mais après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension dans la gloire, il a reçu de Dieu ce que serait l'avenir de l'Église. Alors il est retourné pour apporter ce message à l'Église, et ce message de sa venue est la condition de ces églises tout au long de leur âge. Il ne pouvait pas le faire avant sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, parce qu'il ne le connaissait pas encore. Mais avez-vous remarqué comment l'Écriture le dit ici? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée à Christ. Comment Dieu le Père a donné la révélation à son Fils Jésus-Christ et il a envoyé son ange à Jean pour lui faire connaître ces choses qui étaient, qui sont et qui seront. Oh, quel beau tableau! Maintenant, dans ce glorieux âge à venir que Jean a vu, maintenant cette révélation lui était donnée strictement pour dévoiler le but spécifique de Christ, ce qu'il serait et à quoi il ressemblerait dans chaque âge. C'est pour ça que j'ai dit ce matin, gardez à l'esprit la véritable Église. La véritable Église a commencé le jour de la Pentecôte. Aucun théologien, bibliste ou historien ne pourra jamais dire qu'elle a commencé à l'époque de Martin Luther, Wesley, l'âge catholique ou n'importe quel autre âge. Elle a débuté à la Pentecôte. C'était l'inauguration de l'Église. C'était le début. Ainsi donc, si vous discutez avec quelqu'un, tenez-vous à cette porte de la Pentecôte. Il ne pourra pas aller ailleurs. C'est comme mettre un lapin dans un champ. Vous savez où se trouvent tous les trous. Vous les avez donc bouchés. Il devra revenir obligatoirement à l'endroit par lequel il est entré. Eh bien, c'est comme ça quand quelqu'un parle d'Église et d'âge de l'Église et des œuvres du Saint-Esprit. Vous devez revenir à l'original. Au commencement, il faut revenir là, parce que Dieu est infini et il est omnipotent. Par conséquent, étant donné qu'il est infini, il ne peut pas faire quelque chose ici et faire le contraire ailleurs. Il doit le faire toutes les fois comme il l'a fait la première fois. C'est comme Pierre a dit le jour de... Quand les gens des nations ont reçu le Saint-Esprit, il a dit... Peut-on leur refuser l'eau du baptême, vu qu'ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous, au commencement? Quand il était sur terre, Jésus a parlé et a dit, quelqu'un est venu et a dit, « Nous est-il permis de répudier nos femmes pour un motif quelconque ?» Jésus a dit, « Celui qui a fait l'homme a fait la femme. » C'est pourquoi l'homme, il a dit, « Mais Moïse nous a permis de donner une lettre de divorce. » Jésus a dit, « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Retournez au commencement. Par conséquent, si nous voulons parler de l'âge de l'Église, nous devons retourner au commencement, en mettant de côté toutes les déclarations que des hommes ont faites tout au long de l'âge. C'est le livre le plus officiel de tous les livres de la Bible. C'est le seul livre sur lequel Christ est mis son sceau. Il débute par une bénédiction et se termine par une malédiction. Heureux celui qui lit et maudit celui qui en retranche quelque chose. C'est le seul livre que Christ ait lui-même écrit. De toute la Bible, les 10 commandements, il les a écrits avec son doigt, c'est vrai. Les Juifs se sont accrochés à ça. Et aujourd'hui, c'est l'Apocalypse. Et s'il y a un livre de la Bible que Satan est, c'est l'Apocalypse. Il y a deux. Il est toute l'Écriture. Et c'est tout le canon des Écritures. Mais ce qu'il a le plus en aversion, c'est l'Apocalypse et la Genèse. Parce que la Genèse raconte le commencement. L'Apocalypse révèle ce qui va lui arriver au dernier jour. Il sera lié pendant 1000 ans. Ensuite, lui et le faux prophète et la bête seront jetés vivants dans l'étang de feu. Il attaquera le livre de la Genèse par rapport à son authenticité. Il dira qu'il n'est pas authentique. Et il troublera l'esprit des gens. Regardez où se trouve le diable. Ce livre de la Genèse ou le livre de l'Apocalypse. Le premier et le dernier. Et le livre de l'Apocalypse contient plus de symboles que tous les autres livres de la Bible. Il contient plus de symboles parce que c'est un livre de prophétie. C'est un livre prophétique. C'est pourquoi il doit être compris par une catégorie de gens prophétiques. Ce livre n'est pas destiné à tout le monde. Quasiment personne ne le comprend. Ce livre est fait pour une certaine catégorie de gens. Là, dans Deutéronome, il est dit, les choses cachées sont à l'Éternel. C'est vrai, et il nous révèle, à nous ses enfants, les choses cachées. Alors, cela ne va pas. La pensée charnelle ne peut pas comprendre ces choses glorieuses, ces Écritures, parce qu'elles sont une folie pour eux. Mais à ceux qui sont amoureux de la parole de Dieu, c'est à eux que ce livre a été écrit, à l'Église. La révélation de Jésus-Christ à l'Église d'Éphèse, à l'Église de Smyrne, à l'Église, aux Églises, et ainsi de suite. La révélation de Jésus-Christ à l'Église. J'aime ça. Et remarquez, c'est aussi la fin de toutes choses dans les Écritures, la fin complète de toutes choses. Et il est situé au bon endroit, à la fin de la Bible. La révélation de tout a été placée ici, à la fin, avec une bénédiction pour ceux qui la lisent et l'écoutent, avec une malédiction pour ceux qui ajoutent ou qui retranchent. C'est le canon complet. Oh, l'absolu. On ne peut rien y ajouter. Et quand un homme essaie d'en retrancher quoi que ce soit, ou d'y ajouter quoi que ce soit, Dieu a dit qu'il retrancherait sa part du livre de vie. Voyez, il retrancherait sa part du livre s'il y ajoutait quelque chose. C'est pourquoi, quand nous voyons la révélation de notre Seigneur, dans toute sa diversité, qui il est, ce qu'il est, si quelqu'un y ajoute quelque chose, ou on retranche quoi que ce soit, c'est une fausse prophétie. Beaucoup ont essayé de dire qu'ils avaient quelque chose après cela. Mais cela, c'est la révélation complète du Seigneur Jésus dans son âge de l'Église et en son jour, une révélation de notre Seigneur. Donc, le dévoilement, d'après le mot grec, quelque chose qui était caché, qui révèle Christ. Maintenant, le verset suivant, nous voyons au verset 2. Le verset 1, c'est dévoiler Christ, la révélation ou le dévoilement. Oh, combien le dernier âge et la venue du Seigneur ont été cachés aux apôtres. Ils ont posé la question. Cependant, un seul a vécu pour en avoir la révélation. Et il n'a quand même pas compris parce que ces événements historiques n'étaient pas encore arrivés. Maintenant, l'histoire de ce livre, ou le contexte de ce livre, s'adressait aux sept églises d'Asie mineure qui existaient en ce temps-là. Cela s'adressait à ces sept églises. À cette époque, il y avait d'autres églises que ces sept-là, mais chacune de ces églises avait une caractéristique significative. Chacune, qu'on allait retrouver tout au long de l'âge, la caractéristique de cette église-là, comme celle d'Éphèse, elle avait une certaine caractéristique, Smyrne, Pergame, et ainsi de suite, Philadelphie, chacune de ces églises avait en elle une caractéristique qui allait réapparaître dans les âges à venir. Oh, si seulement vous pouviez, quiconque voit là l'application spirituelle des Écritures, peut-il dire qu'elles ne sont pas inspirées? Vos actions mêmes, les motifs mêmes, les objectifs mêmes des gens, voyons, cela prouve que l'Écriture est inspirée, de voir de quelle manière Dieu applique ces choses. Ce que vous faites ici, c'est le type de quelque chose, comme Abraham qui offre Isaac, son fils unique, un type de Dieu qui donne son fils, des centaines d'années plus tard, comment Joseph a été vendu et emprisonné, haï par ses frères et aimé par son père. Jésus, en type, comment l'Esprit a agi à travers Joseph, un homme qui a été tout simplement un type parfait de la vie de Christ. Comment David, le fils de David, s'est assis sur la même montagne quand David a été rejeté comme roi et qu'il est monté sur la colline, la montagne des Oliviers, qu'il a regardé en arrière en pleurant en tant que roi rejeté. Quelques centaines d'années après ça, le fils de David a gravi la même colline en tant que roi rejeté et a pleuré sur Jérusalem. L'Esprit dans des types et sous des formes. Oh, alors, pouvez-vous voir la grande église pentecôtiste dans ce dernier jour? Pouvez-vous voir comment Dieu l'a inaugurée le jour de la Pentecôte? Cet Esprit devrait rester dans l'église à travers tous les âges. Elles sont devenues formalistes et indifférentes. Il fallait qu'elles aient une dénomination. Il fallait qu'elles unissent l'Église et l'État. Finalement, elles l'ont fait. Et il en est résulté des centaines d'années de persécution. Alors, à la réforme, elles en sont sorties. Et chaque année, elles ont retranché de l'esprit et ajouté du naturel. Retranché de l'esprit et ajouté du naturel. Si bien que maintenant, elles sont prêtes à le faire de nouveau. Nous vivons les toutes dernières heures, la fin de l'Église. Nous sommes dans Philadelphie, ou l'âge de l'Église de Laodicée. Donc, le premier chapitre, le premier verset a été présenté à Jean. Maintenant, qui l'a écrit? Jean. Jean. Ce n'était pas une révélation de Jean, nous le savons, parce que c'était la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Il avait été choisi pour être un disciple, et le livre lui-même révèle ce que c'était, Jésus-Christ, à qui il donnait la révélation. Et cela a été envoyé à... Il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean. Nous ne savons pas qui était l'ange. La Bible ne dit pas qui était l'ange. Mais nous savons que c'était un prophète. Parce que la Bible dit plus loin que « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses qui doivent arriver bientôt. » Puis nous voyons qu'au moment où Jean était sur le point d'adorer l'ange, l'ange a dit « Garde-toi de le faire. » Apocalypse 22, je crois. Et il a dit « Je suis ton compagnon de service et celui des prophètes. » Cela aurait pu être Élie, cela aurait pu être l'un des prophètes. Jean était un apôtre, mais ce prophète a été envoyé. Et Jean, un apôtre, regardez la nature du reste de ses épîtres. Cela prouve que ce n'est pas Jean qui l'a écrite, parce que cela ne correspond pas à la nature de Jean. Prenez un Jean, deux Jean, et ainsi de suite, et lisez ça, et regardez la nature de cela, puis regardez la nature de ceci. Jean était un écrivain et un apôtre, mais ceci, c'est l'esprit d'un prophète. C'est une personne complètement différente. Voyez, ce n'était pas un écrit de Jean, ce n'était pas la révélation de Jean, c'était la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donnée aux églises. Et cela... Jean était seulement un écrivain, le scribe, et c'est ce que ce livre déclare. Donc, cela ne s'adressait pas à Jean, cela s'adressait à l'Église. Très bien. Jean, à ce moment-là, était pasteur de l'Église d'Éphèse. Donc, le livre s'adresse à Jean, ou à l'Église, pas à Jean. Maintenant, le verset 3. Il annonce la bénédiction. Écoutez ceci. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Quel temps est proche? Le temps où ces choses se passent, quand cette révélation de Jésus-Christ est achevée dans chaque âge de l'Église. Maintenant, la raison pour laquelle il l'a écrit comme ceci, s'il avait dit, eh bien, là, il l'attendait. Si cela avait été révélé, s'il avait été révélé à Jean, qu'il allait venir dès que ces églises là-bas auraient pris fin. Voilà ce que Jean pensait. Mais si cela avait été le cas, ces églises, une fois qu'elles auraient pris fin, elles, s'il l'avait su, s'il lui avait été révélé qu'il y aurait 7 longs âges de l'Église, de plusieurs milliers d'années, ou plusieurs centaines d'années, alors il n'y aurait pas eu de raison d'attendre. Ils auraient simplement vécu pleinement leur âge de l'Église. Ainsi donc, Dieu l'a dit, et cela ne leur a pas été révélé. Il n'a pas été révélé à Martin Luther les choses que John Wesley connaissait de l'Écriture. Il n'est pas révélé aux baptistes ce que les pentecôtistes connaissent de l'Écriture, parce que c'est dans un âge différent. C'est un temps différent. Et Dieu révèle les choses qui lui appartiennent seulement en sa saison. Oh, vous ne pouvez pas planter du maïs au printemps et moissonner en même temps. Vous plantez une semence et elle pousse jusqu'à maturité. Dieu plante sa parole et ensuite elle se met à pousser. Et ensuite, nous regardons en arrière et disons, voilà, c'était ça. Oui, bien sûr, Nous la voyons une fois qu'elle a été révélée. Bon, heureux, la parole, l'annonce de la bénédiction au verset 3, ceux qui lisent ou qui entendent ces mystères. Cela fait, l'esprit charnel fuit ça, parce que l'esprit charnel n'y connaît rien. Pas étonnant que l'esprit charnel ne le connaisse pas, parce que c'est Satan dans cet esprit charnel. Et Satan est démasqué, et Satan ne veut pas être démasqué. Avez-vous remarqué comme c'est terrible pour Satan quand il pense qu'il sera démasqué? Observez dans un service, observez le comportement des gens, observez attentivement lors d'une réunion. Juste avant que Satan soit démasqué chez quelqu'un, vous voyez le visage de cette personne changer. Vous voyez, elle ne sait pas que penser. Tout à coup, le Saint-Esprit descend et démasque ce démon. Oh, il déteste cette sorte de réunion. C'est pour ça que nous avons eu un combat pareil. C'est que la parole de Dieu démasque le diable. Voyez, elle dit ce qu'il est. Par exemple, de dire, cette femme assise ici, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de dire, elle s'appelle Mademoiselle Jones, elle vient de tel et tel endroit. Qu'est-ce que cela fait? Cela saisit son esprit et l'élève à un certain niveau. Comment me connaissez-vous? Cet homme ne me connaît pas. Alors, ce doit être un esprit. Quelle sorte d'esprit est-ce? C'est l'esprit de Dieu. Comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Vous avez la tuberculose, le cancer ou autre chose. Mais ainsi dit le Seigneur. Oh, combien Satan déteste cela, parce que cela le démasque. Eh bien, l'esprit charnel regarde cela et dit, c'est de la lecture de pensée, de la télépathie mentale. Ils ne savent pas. Pour eux, c'est de la folie. Mais pour ceux qui savent ce que c'est, oh, quelle bénédiction! Qu'est-ce que c'est? Une révélation. Une révélation de qui? De l'homme à la chair? De Jésus-Christ, dans ce dernier âge de l'Église, qui se révèle comme il a promis de le faire. Voyez? C'est une révélation, voyez? Et Satan déteste cela. Oh, comme il déteste cela! Il est démasqué. Cela dévoile son plan. Satan déteste l'Apocalypse et la Genèse. Je l'ai noté ici. C'est tout à fait vrai. Alors pourquoi est-ce qu'il déteste une révélation? Pourquoi est-il tellement opposé à la révélation? C'est parce que le canon entier de la parole de Dieu et l'Église de Dieu sont bâtis strictement sur la révélation. Cela ne viendra jamais par une école, peu importe le nombre de bons séminaires que nous avons. Ils sont très loin en arrière, dans l'âge obscur. La Bible et l'Église sont absolument une révélation. Prenons, j'ai noté ici quelques passages des Écritures. Matthieu, le chapitre 16 et le verset 18. Jetons un petit coup d'œil à Matthieu 16, 18. Voyons où se trouve le passage des Écritures où les questions de la révélation. En descendant de la montagne, le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Maintenant, l'Église catholique dit, « Il l'a bâti sur pierre. » Eh bien, ça, c'est vraiment une pensée charnelle. Il est inimaginable qu'une pensée spirituelle comprenne une chose pareille, que Dieu, ayant là son propre Fils, bâtisse néanmoins son Église sur un homme ordinaire, né dans le péché, comme les autres. Cet homme l'a démontré, lui, avec ce même esprit sur lui. Il a maudit Jésus et l'a renié en face. Ce n'était pas Pierre, ou ce n'était pas non plus une pierre qui se trouvait là, comme certaines églises le prétendent. Ce n'était pas une pierre. En effet, Pierre, la pierre dont il parlait là, ce n'était pas Pierre, et ce n'était pas non plus lui-même. Or, beaucoup de protestants essayent de dire, c'était Jésus, c'était sur lui qu'il a bâti l'église. Lui. Non, c'est toujours faux. Si vous remarquez, ce n'était pas Jésus, et ce n'était pas Pierre non plus. C'était la révélation. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui a donné cette révélation. Regardez, je veux vous demander, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas d'écriture écrite. Et alors ces deux garçons, Cain et Abel, l'un et l'autre ont voulu offrir un sacrifice et trouver grâce aux yeux de Dieu. Pour le faire, Cain est venu et a bâti un autel. Abel a bâti un autel. Eh bien, si c'est tout ce que Dieu exige, Dieu serait injuste de condamner Cain. Très bien. Alors Cain a offert un sacrifice. Abel aussi. Tous deux ont offert un sacrifice. Cain a adoré et Abel aussi. Cain a fait tout ce qu'Abel a fait. Alors, si le fait d'aller à l'église, d'être membre de l'église, d'offrir des sacrifices, de prier et d'adorer Dieu, c'est tout ce que Dieu exige, Dieu serait alors injuste de condamner Cain pour avoir fait exactement ce qu'il avait dit de faire. Mais vous voyez, Abel, par une révélation, il a su que ce n'était pas un fruit qui les avait fait sortir du jardin d'Éden, comme beaucoup d'esprits charnels l'imaginent aujourd'hui. Abel est venu et a offert le fruit de la terre, et Dieu l'a refusé. Mais cela a été révélé. Je veux dire, Cain a fait cela. Excusez-moi. Cain a offert le fruit de la terre parce qu'il croyait que c'était ce qui les avait fait sortir du jardin d'Éden. Observez cette révélation. Observez le désaccord avec ça. Observez combien ça scandalise aujourd'hui. Mais ce n'était pas un fruit qui les avait fait sortir. Ève n'a jamais mangé de pomme. Certainement. Comment s'est-elle rendue compte qu'elle était nue si elle a mangé une pomme? Cela avait trait à la vie sexuelle. Forcément. Maintenant, nous prenons cela sous forme d'étude. Nous l'avons fait, nous y revenons. Ils n'ont pas une seule référence dans les Écritures. Certains disent, « Eh bien, elle a dit, j'ai acquis un fils avec l'aide de l'Éternel. » Oui, monsieur, la prostituée aussi. C'est Dieu qui doit produire toute vie. Mais c'est une vie pervertie. Regardez la nature de ce garçon. Il était de son papa, le diable. Haineux, méchant, meurtrier. Voyez? Et alors, comment Abel, qu'a-t-il? Ses parents lui ont probablement dit que les arbres portaient du fruit et tout. Mais cela a été révélé à Abel. Abel est allé prendre un agneau pour le sang, en ôtant la vie. Pas un arbre fruitier, produisant des pommes et des bananes et des poires. Mais Abel, par une révélation spirituelle, Hébreux 11, offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Dieu approuve en cela, car cela lui avait été révélé par la foi. C'est sur cela que Dieu a bâti son Église. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci. Tu ne l'as jamais appris dans un séminaire. Ce n'est pas quelqu'un qui te l'a enseigné quelque part. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Là, tout est bâti sur la révélation. Toute l'Église. Sur cette pierre de la révélation de Jésus-Christ, je bâtirai mon Église. Vous pouvez prendre ce que le pasteur dit. Vous pouvez prendre ce que le séminaire enseigne. Vous pouvez prendre ce que l'Église dit. Et ce n'est pas juste malgré tout. Vous pouvez être capable de l'expliquer avec éloquence. Mais tant que Dieu ne vous a pas révélé que Jésus-Christ est son Fils et que vous êtes sauvés par son sang, sur cette révélation qu'il est mon Sauveur, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Donc, vous voyez pourquoi Satan s'oppose tant au livre de l'Apocalypse. Tout ce qui est révélé, la révélation spirituelle, Satan s'y oppose. C'est pourquoi il s'oppose tant au ministère aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce que c'est? La révélation de Christ. Laissez l'Église continuer avec ses grandes dénominations et ses organisations et ses petits messages enjolivés et tout. Laissez-les continuer. Satan ne va pas les déranger. Ils n'ont pas d'ennui. Tout le monde leur donne une petite tape dans le dos. Quand arrive le temps où Dieu, par le Saint-Esprit, révèle Christ de nouveau dans l'Église, avec la puissance et des démonstrations de guérison des malades, accomplissant les signes dont il a dit qu'ils accompagneraient les croyants, alors Satan se retourne dans son lit. Il réagit. Avant ça, le nombre d'églises auxquelles vous adhérez, Satan, ça lui est bien égal. Ça lui est bien égal. Mais quand Christ vous révèle qu'il est le Fils de Dieu, et que les œuvres qu'il a faites, vous les faites aussi. Pas d'autres œuvres, mais les mêmes œuvres. Celui qui croit en moi, Jean 14, 7. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, fera les mêmes œuvres et de plus grandes que celles-ci. En effet, Christ ne pouvait pas prêcher le baptême du Saint-Esprit, car ce serait plus grand. Il ne pouvait pas le leur apporter, parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Mais quand Jésus est venu, et qu'il a sacrifié sa vie, et que le Saint-Esprit est revenu, alors ils ont pu transmettre la vie éternelle aux gens. C'est ça qui est plus grand. Mais les signes et prodiges, Jésus a dit clairement dans Marc 16, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. » Jusqu'où? Par tout le monde. À qui? À toute la création. Aussi longtemps que l'Évangile sera prêché, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Et quand cela devient une révélation, frère, alors vous êtes près du royaume. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En effet, l'homme ou la femme qui s'est retrouvé seul derrière ce désert, comme Moïse, et à qui la révélation de Dieu a été manifestée par le Saint-Esprit, rien ne peut l'ébranler. Il est bien équilibré et affermi. Satan déteste la révélation. Il n'aime pas ça du tout. Cela dérange ses plans. La nature du livre montre que ce n'est pas Jean qui l'a écrit. C'est vrai, car c'est son écrit, mais pas son inspiration. C'est l'inspiration de Dieu qui écrit le livre. Très bien. Voyons maintenant ce qui est dit. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bon, le temps est proche. C'est quoi? Quand la révélation complète de Jésus-Christ a été divulguée à ses églises, et cela leur est révélé au fur et à mesure que les âges se déroulent. Maintenant, nous sommes arrivés au temps de la fin. Alors maintenant, nous sommes vraiment à la fin du monde. Nous sommes tout à la fin de l'histoire du monde. Et avant la fin de cette semaine, comme Dieu est avec nous et qu'il nous aide, nous allons prouver que nous sommes à la fin des âges de l'Église. Nous sommes dans Philadelphie ou l'âge de l'Église de Laodicée, la fin de tous les âges. Nous sommes à la fin du monde politique. Nous sommes à la fin du monde naturel. Nous sommes à la fin de toutes choses. Nous sommes à la fin de toutes les choses naturelles, présentées. En venant l'autre jour, je crois que j'allais à Shreveport, ou j'allais quelque part. J'ai regardé, j'ai dit, les arbres sont en train de mourir, l'herbe est en train de mourir, les fleurs sont en train de mourir, je suis en train de mourir, le monde est en train de mourir, tout est en train de mourir, tout dans ce monde est en train de mourir. Nous sommes assis, ici ce matin, en train de mourir. Assurément, il y a un monde quelque part où tout ne meurt pas. S'il y en a un où tout est en train de mourir, il doit y en avoir un où tout est en train de vivre. C'est ce que nous attendons impatiemment. C'est d'arriver à cet endroit où il y a... Les arbres sont immortels. Oh, où tout est immortel et se tient dans la gloire de Dieu. Bon, donc, les trois premiers versets que nous avons pris maintenant posent le fondement. Le premier, la révélation de Jésus-Christ. Le deuxième, cela a été donné à Jean par un ange. Et le troisième, c'est heureux, la bénédiction accordée à ceux qui lisent. Et si vous ne savez pas lire, heureux celui qui entend. Vous ne savez pas lire, entendez-la seulement. C'est tout. Heureux celui qui lit. Et si vous ne savez pas lire, heureux celui qui entend, car le temps est proche. Maintenant, imaginez ce que signifie le canon de ceci. C'est que Jean, l'écrivain là, en rédigeant ceci, ici, c'est Jean qui dit des bénédictions, et ainsi de suite. Maintenant, ce que moi je pense, c'est que dans l'Ancien Testament, le sacrificateur se levait le matin et lisait les Écritures. L'assemblée écoutait. Beaucoup ne savaient pas lire. Alors il disait, « Heureux celui qui lit et celui qui entend. » Voyez, le lecteur est l'auditeur. Celui qui lit et celui qui entend sont bénis. Alors, si vous restez simplement assis à écouter cela, vous êtes bénis. Heureux celui qui lit et celui qui entend, car le temps est proche. Bon, de 4 à 6, c'est la salutation à l'Église. Maintenant, nous voulons prendre ces versets 4 et 6. Maintenant, avant d'attaquer ce sujet, je veux que chacun essaye de réfléchir sérieusement. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la révélation de Jésus-Christ, quand Dieu a ôté le voile du temps. Voici le temps que Jésus ne pouvait pas voir quand il était ici sur terre, les âges de l'Église, ce qui arriverait. Alors Dieu a ôté le voile, l'a retiré, et il a laissé Jean regarder à l'intérieur pour voir ce que chaque âge de l'Église allait faire. Et il a écrit dans un livre et l'a envoyé aux sept églises. Qu'est-ce que c'est? Christ révélé au temps où il agit. Il est plein d'action, ce livre, vraiment. Et c'est un livre prophétique que Christ a donné, que Dieu nous a donné par son ange, écrit par Jean. Et il y a une bénédiction pour tous ceux qui le liront ou en entendront la lecture. Car le temps est proche où tout ceci va s'accomplir. On a un bon fondement là. Et souvenez-vous, nous gardons l'Église à l'esprit. D'un côté, l'Église débute, de l'autre côté, l'Église finit. Nous approfondirons cela lundi soir, quand nous aborderons les âges de l'Église. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant le trône. Maintenant, nous abordons les parties mystérieuses et profondes des symboles. Cela s'adresse aux sept églises qui sont en Asie mineure. Elles avaient les âges à cette époque-là devaient venir plus tard. Il les a loués et félicités pour leurs œuvres et leur travail. Mais là, ça s'adresse à ces églises, les sept églises qui sont en Asie mineure. Bon, l'Asie mineure, ce n'était pas toute l'Asie, le continent asiatique, c'était seulement une petite partie. On prétend que cela représente à peu près la superficie de l'État de la Pennsylvanie, voyez, ou quelque chose comme ça, ou de l'Indiana, juste un petit endroit où ces sept églises se trouvaient. Il y avait encore d'autres églises à cette époque, mais cela révélait leur caractère. Je lis ici maintenant ce que j'ai retiré du récit historique que j'ai lu à ce sujet. Et il est « Maudit soit celui qui entend et qui n'écoute pas cela ». Et maintenant, on en arrive au temps de ce verset 4. Et nous voulons expliquer quelque chose ici. De la part de celui qui était, qui est et qui vient, et qui a les sept esprits. De la part des sept esprits qui sont devant son trône. Bon, les esprits, nous allons y venir plus tard. Maintenant, ici, cela présente, si vous remarquez là, aussi au verset 7 ou au verset 8, il dit encore, il présente de nouveau. Maintenant, observez, cela s'adresse aux sept églises. De la part de celui qui est, qui était et qui vient, qui était une fois, qui est maintenant et qui vient. Maintenant, il présente ici sa triple manifestation de son œuvre. Maintenant, si vous prenez le verset 8, nous allons y venir dans un instant. Nous allons prendre le verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu. » Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Maintenant, en regardant les versets 4 et 6, nous voyons qu'ils sont pareils. Dans l'un, il dit « à celui qui était, qui est, qui vient ». Qu'est-ce qu'il essaie de présenter à l'Église? Sa divinité. Aujourd'hui, les gens essaient de faire de lui un prophète. Il est plus qu'un prophète. Et certaines personnes essayent de faire de lui trois dieux. Il n'est pas trois dieux. Il est un seul Dieu qui a vécu dans trois fonctions, trois manifestations du même Dieu. Maintenant, souvenez-vous, ceci, c'est la révélation. Et quiconque entend cela et ne garde pas les paroles de ce livre, sa part sera retranchée du livre de vie. Jésus ne se révèle pas comme trois dieux, mais un seul Dieu et trois fonctions. Oh, cela va devenir riche dans un moment quand nous entrerons dans ces âges de l'Église et que nous verrons où ils ont perdu cela. Cela produit une grande division au Concile de Nicée. Les deux côtés sont partis dans la mauvaise voie. Et ils ont refait la même chose en ces derniers jours, comme si c'était de nouveau un concile avant Nicée, parce qu'il y en aura un autre. Aussi sûr que je me tiens ici, l'Église catholique et l'Église protestante vont s'unir ou se mettre d'accord. Regardez l'archevêque de Canterbury, là-bas maintenant. Tout est en train de prendre forme. Et il n'y a pas dans la Bible d'enseignement d'un Dieu trin. Il y a un seul Dieu. Et c'est révélé ici dans le livre de l'Apocalypse, afin que tout le canon des Écritures soit attesté ici. Et Christ a mis son sceau dessus. C'est ça. Si quelqu'un retranche ou ajoute, lui-même sera retranché du livre de vie. Alors, n'abordez pas ceci de façon égoïste. Abordez ceci avec un cœur ouvert et un esprit ouvert. Là, au Concile de Nicée, ils en sont venus à deux grandes prises de position sur, oh, beaucoup d'entre eux, à l'époque des premiers pères de l'Église, ils avaient deux vues extrêmes. L'une d'elles était celle d'un Dieu trin, trinitaire, et l'autre était celle d'un Dieu unique. Toutes deux ont vu le jour et ont pris deux branches latérales, comme ça. La triunité a fait place à une personne formée de trois dieux. La doctrine unitaire est devenue unitarienne, tout aussi éloignée que l'autre l'était. Donc, toutes deux ont pris des branches latérales. Mais la vérité est révélée là-dedans. Jésus ne pouvait pas être son propre Père. De même, s'il avait un Père autre que le Saint-Esprit, alors il serait un enfant illégitime. Et pas, c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu. Et il a dit que Dieu était son Père. Alors le Saint-Esprit est Dieu. C'est Matthieu 1,18. Si, il faut que le Saint-Esprit et Dieu soient la même personne. Sinon, il aurait eu deux papas. Il a été appelé Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Quand il était ici sur terre, il a déclaré que lui et le Père étaient un. J'ai noté ici tous les passages de l'Écriture pour que vous puissiez les retrouver si cette question nous était posée ou autre chose. Donc, quand il était manifesté ici, dans la triple fonction de son être, celui qui était, celui qui est, celui qui vient, le Tout-Puissant. Eh bien là, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Et au Concile de Nicée, pour faire ceci, afin de faire ceci, ils ont dû prendre une trinité, parce que dans le monde romain, ils avaient beaucoup de dieux. Ils adressaient des prières à leurs ancêtres morts. J'ai ici l'histoire qui pourrait être citée, voyez. Ils adressaient des prières à leurs ancêtres morts. C'est pour ça qu'ils ont Sainte Cécile et Saint Marc et Saint. Alors que l'apôtre Pierre a dit, il n'y a point d'autre médiateur entre Dieu et les hommes que l'homme Jésus-Christ, un seul. Il leur fallait un Dieu trinitaire. En effet, ils avaient Jupiter, Mars, Vénus, et ce n'était pas juste de tout mettre sur un seul Dieu. Alors, ils l'ont simplement découpé et ont transformé les trois fonctions de Dieu en trois dieux différents. Mais ici, dans l'Apocalypse, il dit clairement qui il est. Je suis celui qui était, celui qui est celui qui vient, le Tout-Puissant. Nous allons y venir un peu plus tard ici. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, de A à Z, le tout dans l'alphabet grec, le lys de la vallée, la rose de Saron, Père, Fils, Saint-Esprit, celui qui était, qui est et qui vient. Le rejeton est la postérité de David. Il est Dieu. Dieu, sans 1 Timothée 3,16, sans contredit, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dieu, pas une troisième personne ou un prophète, mais Dieu lui-même manifesté sous la forme humaine. Maintenant, ceci, c'est une révélation. Souvenez-vous, eh bien, Dieu, au commencement, était le grand Jéhovah qui vivait dans une colonne de feu, se tenant au-dessus d'Israël et qui les conduisait. C'était Dieu, l'ange de l'Alliance. Il est descendu sur la montagne. Toute la montagne s'est embrasée. Le feu a jailli de la montagne et a écrit les 10 commandements. Il était appelé Dieu dans sa paternité, envers ses enfants, sa race élue, les Juifs. Puis le même Dieu a été manifesté dans un corps né d'une vierge qu'il avait créé dans le sein de Marie. Il a vécu et a fait sa demeure et a dressé sa tente, pour ainsi dire, parmi les êtres humains. Et ce même Dieu a été fait chair et a habité parmi nous. La Bible le dit. Dieu était en Christ. Le corps était Jésus. Jésus, en lui, habitait corporellement la plénitude de la divinité. On ne peut donc pas faire de lui 3 personnes. Ne baptisez pas à 3 dieux. Il y a un seul Dieu. Voyez, un seul Dieu. Alors, ce même Dieu a été fait chair. Il a dit, « Je suis venu de Dieu et je vais à Dieu. » Après qu'il a disparu de la terre suite à sa mort, après son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, quand il s'appelait encore Saul. Et une voix s'est fait entendre et a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a dit, « Qui es-tu » Il a dit, « Je suis Jésus. » Il était une colonne de feu, une lumière qui a rendu l'apôtre aveugle. Il était redevenu cela. Le même Jésus était redevenu Dieu le Père. C'est pour ça qu'il a dit ici, « Je suis le Tout-Puissant », sous la même forme qu'il était avant d'avoir été fait chair. Le corps dans lequel il avait vécu, appelé Jésus, l'homme que nous connaissons, Jésus. Maintenant, c'est comme beaucoup d'entre vous, chers unitaires, qui baptisez au nom de Jésus. Vous êtes dans l'erreur. Il y a des centaines de Jésus dans le monde aujourd'hui. Mais il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus-Christ. Il est né Christ. De nombreux Jésus. J'en ai rencontré beaucoup. Mais il y a un seul Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu. Et Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms. Ce sont des titres qui se rapportent à un nom. Ils baptisent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Et Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont des titres comme humain. C'est ça, le Saint-Esprit. Un humain ou un esprit, le Saint-Esprit. Dire alors, au nom du Père, regardez les pères et les fils de vos fils. Regardez tous les humains ici. Voyez, Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas un nom. Ce sont des titres qui se rapportent au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que l'Église apostolique baptisait au commencement. Et je demanderai à quiconque de présenter un seul passage de l'Écriture ou une seule fois dans l'histoire où quelqu'un ait été baptisé dans l'Église chrétienne autrement que dans « qu'au nom de Jésus-Christ » jusqu'à ce que l'Église catholique soit formée. Et ils ont adopté Père, Fils et Saint-Esprit comme credo. Maintenant, présentez vos faits historiques. Quelques-uns d'entre vous, historiens, oui, ça n'existe pas. Après l'an 304 de notre ère, 304, c'est alors qu'est arrivé le baptême train pour un Dieu train. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est du paganisme. Avant la fin de cette semaine, je le lirai dans les livres et vous le montrerai par la Bible. Ce matin, nous parlons de la révélation et nous démontrons où cela a été introduit et comment cela a débuté. Frères, revenez à la vérité. Nous sommes au dernier jour. Attendez que nous prenions cette église d'Éphèse comme type pour la comparer avec celle de Laodicée et regardez ce qui est arrivé entre les deux. Vous verrez comment cette chose s'est infiltrée. Elle est entrée dans l'âge de Luther. Il est dit, tu passes pour être vivante, mais tu es morte. Le mot sarde lui-même signifie mort. Ils l'ont perdu pendant les 1500 ans de l'âge des ténèbres. Chacune de ces églises a gardé cela jusqu'à ce temps-là. Alors, quand ils ont eu le concile de Nicée en 606, et alors ils ont détruit ce nom et en ont fait 3 dieux. Il a dit ici, je suis celui qui était, celui qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Effectivement, sur la terre, son être était train. Quand il était sur terre, il était un être train. Sur terre, il était prophète. Il est aussi, dans le ciel, un sacrificateur. Et quand il reviendra de nouveau sur la terre, il sera roi, prophète, sacrificateur et roi. Celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui était, c'était Jésus, un prophète. Celui qui était, maintenant, il est sacrificateur, offrant des sacrifices spirituels. Un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses et se dévoiler, prouver qu'il est au milieu de nous. Prophète, sacrificateur et roi, mais un seul Dieu. Quand il était sur terre, il était prophète, la parole, le témoin fidèle, comme la Bible l'appelle un peu plus loin. Un témoin fidèle, c'est le prophète. Il était sacrificateur. Et quand il est sacrificateur maintenant, et quand il viendra, il sera roi. Si vous allez lire Apocalypse 15, 3, vous le verrez là, dans Apocalypse 15, 3. Prenons-le pour voir ce qu'il, s'il va être roi, s'il est roi quand il vient. Donc, nous prenons dans l'Apocalypse, au chapitre 15, le verset 3. Et il chante un cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des saints. » Qu'est-ce qu'il était sur terre? Prophète. Comment les gens ont-ils su qu'il était prophète? Il a manifesté le signe du Messie, lequel était prophète. Oh, béni soit le nom du Seigneur! Comment l'ont-ils manqué? Parce qu'ils attendaient autre chose. Il a manifesté le signe du Messie, et ils n'ont pas voulu l'écouter. Il était prophète. Moïse a dit, « L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. S'ils n'écoutent pas ce prophète, ils seront retranchés du milieu du peuple. » Il était prophète sur la terre, là, parce qu'il était quoi? Le témoin fidèle de la parole de Dieu. Amen. Il était la parole de Dieu manifestée. Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Il était le témoin fidèle et véritable de la parole éternelle de Dieu. Il était la parole de Dieu. Et étant la parole, il était prophète. Car la parole de Dieu coulait à travers lui. Il ne pouvait dire que la chose. Je ne peux rien faire de moi-même, mais seulement ce que le Père me montre de faire. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père est en moi, a dit Jésus. L'homme, le tabernacle. Dieu a beaucoup de titres. Jéhovah, Jéhovah Jireh, Rapha, Manassé. Oh, beaucoup. Il a 7 noms composés en rapport avec la rédemption. Il a beaucoup de titres. La rose de Saron, le lys de la vallée, l'étoile du matin, Père, Fils, Saint-Esprit, tout ça. Mais il a un seul nom humain. Dieu avait seulement un nom, et c'était le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est né, Christ, le Seigneur, 8 jours plus tard, le Saint-Esprit l'a appelé Jésus. Sa mère l'a fait circoncire et l'a appelé Jésus. Il est né le Christ. C'est comme moi, je suis né Branham. J'étais un Branham quand je suis né. Et on m'a donné le nom de William. Amen. Et il est né Christ, le Sauveur. Il y a 8 jours, on lui a donné le nom de Jésus. Et il était le Seigneur de gloire, manifesté. Donc, il est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, manifesté parmi nous. Oh, le voilà. Sur terre, il était prophète. Dans la gloire, il est sacrificateur. Quand il viendra, il sera roi. Oh, j'aime ça. Prophète, le témoin fidèle de la parole. Sacrificateur, avec son propre sang devant Dieu. Roi, roi des saints. Pas roi du monde, là. Il est roi des saints. On a des rois terrestres qui règnent sur les gens. Mais nous aussi, nous avons un roi et un royaume. C'est pour ça que nous nous comportons différemment. Comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps à propos de ma femme, nous allions ici au magasin et nous avons vu un miracle, enfin presque. C'était l'été, une femme portait une robe. Et j'ai dit, c'est étrange. J'ai dit, si j'avais mon appareil photo, je prendrais la photo de cette dame, voyez. Parce que nous, c'était la première femme que nous voyions en jupe, vous savez, qui était habillée comme une dame devrait l'être, toutes les femmes. Elle a dit, « Eh bien, Bill, comment se fait-il que nos gens s'habillent? Est-ce que c'est parce que cela nous est prescrit ?» J'ai dit, « Ce ne sont pas nos gens, c'est le peuple de Dieu. Et la sainteté est exigée du peuple de Dieu. Elle a dit, « Eh bien, ne vont-elles pas à l'église ?» J'ai dit, « Il y a une dame juste là qui chante dans la chorale d'une certaine église ici. Eh bien alors, comment cela se fait-il » J'ai dit, « C'est qu'on ne lui a pas enseigné autre chose. » C'est tout à fait ça. Il y a cette église charnelle. Nous allons y venir cette semaine. Église spirituelle, église charnelle. Elle retourne directement vers l'église mère, comme la Bible dit, dans Apocalypse 17, qu'elles le feront. Elles y retournent en ce moment. Toutes, elles se comportent comme elles. Elles s'organisent. Eh bien, nous sommes une certaine. Nous nous organisons. Nous sommes ceci et nous sommes cela. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Retirant toute la puissance de l'Église et la plaçant sur un évêque ou un pape. Dieu est dans son Église, parmi son peuple, se manifestant à travers les laïcs et partout maintenant. Mais en ce jour-ci, elle a dit, « Eh bien, ne sommes-nous pas américains ?» J'ai dit, « Non, nous habitons ici, mais nous ne sommes pas américains. Nous sommes chrétiens. Notre royaume est d'en haut. Et si nos vies viennent d'en haut, alors nous nous comportons comme ça. C'est que nous venons... Notre vie vient d'un lieu saint. L'apparence change. L'habillement change. Les femmes là-haut ont les cheveux longs et elles ne se mettent pas de manucure sur le visage. Et elles ne portent pas de shorts. Elles portent des jupes, des robes longues, des robes. Elles ont les cheveux longs et tout. Alors là, la nature de ce qui vient d'en haut se reflète sur nous. Les hommes ne fument pas, ne chiquent pas, ne mentent pas, ne volent pas. Ils viennent, leur esprit vient d'un lieu saint. De ce fait, ils se comportent d'une manière sainte et se reconnaissent mutuellement comme des frères. Oui, c'est ça. Nous sommes d'un royaume et nous avons un roi et il est le roi des saints. Et le mot saint vient de l'expression « ceux qui sont sanctifiés ». Alors, quand quelqu'un est sanctifié, Christ, le Saint-Esprit, entre dans son cœur et devient roi, ayant l'autorité sur lui. Oh là là, ça devrait faire mouche. Oh, quand le vase de Dieu sanctifié, Christ, le roi, le Saint-Esprit entre, et il, un roi, a son domaine. Amen. Et votre être entier est dirigé par le roi des saints. Un royaume. Tous les royaumes sur terre seront ébranlés, détruits par la puissance atomique. Mais la Bible dit, nous recevons un royaume qui ne peut pas être ébranlé. Amen. Le voici, le roi des saints. Je veux que vous remarquiez les symboles de Christ aussi, dans la Bible et ici sur la terre. Sur la terre, il était prophète. Le croyez-vous? Un prophète, c'est la parole. Nous savons ça. Le mot prophète signifie un interprète divin de la parole. La parole divine est écrite et le prophète a l'esprit divin de Dieu en lui. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, le prophète était appelé Dieu. Combien le savaient? Jésus a dit, « Si on appelait Dieu ceux, n'est-il pas écrit dans votre loi qu'ils sont, vous êtes des dieux ? Et si on appelait Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, le prophète, comment me condamnerez-vous quand je dis que je suis le Fils de Dieu ?» En effet, on l'appelait Dieu parce qu'il portait en lui la parole de Dieu. L'ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, le mot prophète signifie qu'il ne faut pas toucher à son interprétation. Voyez, si Dieu... Il dit, s'il y a parmi vous quelqu'un qui est spirituel ou prophète, moi l'Éternel, je lui parlerai. Si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le, parce que je suis avec lui. Mais si cela n'arrive pas, alors ne l'écoutez pas. Je ne l'ai pas envoyé. C'est comme ça qu'on peut savoir. Et puis, vous voyez, l'interprétation divine de la parole doit concorder avec cette dernière révélation à l'Église. Il est Dieu, le Tout-Puissant. Sur terre, il était prophète, c'est-à-dire un aigle. Combien savent qu'un prophète est considéré comme un aigle? L'aigle est l'oiseau le plus fort qui soit, le plus puissant. Les ailes de certains d'entre eux ont une envergure de 4 mètres. Il peut s'élancer et voler tellement haut que, si un autre oiseau essayait de le suivre, il se désintégrerait. Ses plumes se détacheraient et il se disloquerait. Pourquoi donc? Il est bâti d'une façon spéciale. Et à quoi cela lui servirait-il de monter aussi haut s'il ne pouvait pas voir ce qu'il fait quand il est là-haut? Vous parlez de l'œil d'un faucon. Vous devriez voir l'œil d'un aigle. Il se peut qu'un faucon voit un poulet, c'est vrai. Voilà ce qui se passe avec certains de ces faucons aujourd'hui. Oui, mais je vous le dis, un aigle va tellement... Si un faucon essayait de le suivre, il mourrait, il suffoquerait. Il ne peut pas pénétrer dans les mêmes sphères que l'aigle. Et puis, il a un œil qui lui permet de voir très loin, une fois là-haut. Alors, c'est pour ça que Dieu a appelé ses prophètes des aigles. Il monte là-haut, et il est un aigle. Il peut voir très loin. Et Christ, sur terre, était un aigle. Quand il est mort, il était un sacrificateur. Alors cela fait de lui un agneau, pas vrai? Et quand il revient, il est roi. Il sera donc un lion. Amen. Le lion de la tribu de Juda. Amen. Il est un aigle, un agneau et un lion. Amen. Père, Fils et Saint-Esprit. Prophète, sacrificateur et roi. Celui qui était, qui est et qui vient. Le Tout-Puissant. L'Alpha et l'Oméga. Du commencement à la fin. Le Dieu éternel. Je voudrais vous demander à certains d'entre vous, chers amis catholiques, qui appelez ça la filiation éternelle de Dieu. Dieu, la filiation éternelle de Jésus-Christ par rapport à Dieu. Comment pouvez-vous employer une telle expression? Je suis un simplet, je n'ai fait que des études primaires. Pourtant, je sais ce qu'il en est. Le mot « fils » laisse sous-entendre un commencement. Alors comment peut-il être éternel et être un fils? L'éternité n'a ni commencement ni fin. Donc, il ne peut pas être un fils éternel, et puis avoir un commencement, parce qu'un fils éternel, ça n'existe pas. Un fils a eu un commencement, alors il ne peut pas être éternel. Vous voyez, il est le Dieu éternel, pas le Fils éternel. Gloire, le Tout-Puissant, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, manifesté dans la chair. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Et le jour de la Pentecôte, quand cette colonne de feu est descendue sur les gens, avez-vous remarqué, elle s'est divisée et des langues de feu se sont posées sur chacun d'entre eux. Du feu, comme des langues, qui se posaient sur chacun. Qu'est-ce que Dieu faisait? Il se divisait dans l'Église, entre tous, donnant aux femmes, aux hommes et à tous des parties de son esprit, se répartissant dans son Église. Comment un homme peut-il se présenter et dire « L'homme saint, c'est le pape. L'homme saint, c'est l'évêque. L'homme saint, c'est Christ. Le Saint-Esprit en nous. Comment pouvez-vous dire que le laïc n'a rien à dire? Chacun d'entre vous a quelque chose à dire. Chacun d'entre vous a un travail à faire. Chacun d'entre vous doit porter un message. Gloire! Le Saint-Esprit s'est divisé le jour de la Pentecôte. Dieu qui s'est divisé. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. En ce jour-là, le Saint-Esprit, au-dessus de tous, en tous, à travers tous. Amen. C'est ça. Le Saint-Esprit a le droit de se déplacer où il veut, de venir sur qui il veut. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qu'un évêque ou un prêtre dit. C'est lui, notre unique prêtre, c'est vrai, notre souverain sacrificateur. Donc, prophète, sacrificateur et roi. Bon, et Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, nous allons y venir, est le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Le mot « laver » là, en fait, dans le grec, signifie « délier ». Il nous a déliés de notre, nous étions liés à la terre par notre péché. Nous ne pouvions pas voir, ne pouvions pas entendre, n'avions aucune idée du ciel ni de rien d'autre. Mais quand le sang est descendu, il a coupé la corde et nous avons été déliés. Oh, une fois, j'ai lu une histoire, c'est « elle s'intégrerait bien ici ». Un fermier a attrapé un corbeau et il l'a attaché. Il s'est dit, je vais donner une leçon aux autres corbeaux. Alors, avec une ficelle, il a lié ce corbeau par la patte. Et cette pauvre bête a failli mourir de faim. Il était si faible qu'il avait de la peine à se déplacer. C'est ce qu'ont fait certaines de ces organisations et églises. Elles ont lié les gens. Vous ne pouvez pas. Eh bien, ça, c'est le plus loin que vous pouvez aller. Les jours des miracles sont passés. Oui, vous êtes simplement liés, c'est tout. Le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Il ne parle pas en langue comme autrefois. Il est Dieu. Il est exactement le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Il vit dans toutes les églises. Nous allons y arriver, après avoir posé le fondement ce matin. Voyez, il est Dieu qui vit dans tous les âges de l'Église. Il vivra dans tous les âges de l'Église, et vivra dans son peuple comme pour l'éternité, car nous avons maintenant en nous la vie éternelle. Donc, cette dénomination l'avait liée, vous voyez. Eh bien, les jours des miracles sont passés. La guérison divine, ça n'existe pas. La pauvre bête allait clopin-clopon, si faible qu'elle avait de la peine à marcher. Alors, un jour, un brave homme est passé par là et il a dit, « Vous savez, ce pauvre corbeau, j'ai pitié de lui. Après tout, peut-être bien qu'il a pris son maïs, mais c'est son seul moyen de subsistance. Il faut bien qu'il mange quelque chose. Il ne connaissait rien d'autre que d'aller là-bas prendre du maïs. Donc si... Alors, il a pris son couteau et a délié le corbeau. Et vous savez, voilà que les autres corbeaux sont arrivés et ont dit, « Viens, Johnny le corbeau, partons vers le sud, le froid arrive. » Vous savez quoi? Ce corbeau est allé aussi loin qu'il pensait pouvoir aller. Il a dit, « Je ne peux pas. Ce n'est tout simplement pas pour nous en ce jour-ci. Nous ne pouvons tout simplement pas le faire. » Voyez, il avait été lié tellement longtemps qu'il croyait être toujours lié. Voyez, et c'est comme ça pour beaucoup de gens. Vous êtes liés par des credos et des dénominations venant de la vieille mère prostituée là-bas, qui vous dit que Jésus-Christ n'est pas le même, et que la guérison, ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit, que ces affaires n'existent pas. On essaye de vous dire ça. Vous avez été liés tellement longtemps que vous croyez toujours être liés. L'homme bon, Christ, a donné son sang pour nous laver et nous délier de notre péché. Le péché, c'est quoi? Je demande à quiconque de me le dire. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est l'incrédulité. C'est vrai, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Et votre péché est la seule chose qui vous empêche d'être libre. C'est parce que Dieu vous a libéré de votre incrédulité. Mais vous êtes tellement lié par des credos que vous croyez toujours être attaché. Vous mourrez de faim. Vous voyez, vous allez clopin-clopon. Je suis presbytérien, je suis méthodiste, je suis baptiste. On me dit, je suis de l'Église de Christ. Que les jours des miracles sont passés, ça n'existe pas. Pauvre corbeau affamé. Pourquoi ne venez-vous pas ce matin? Pourquoi ne vous envolez-vous pas? Alléluia! Et levez-vous sur les ailes de l'aurore et envolez-vous vers le soleil de la justice qui a la guérison sous ses ailes. Amen. C'est ça, frère, sœur. Oh, celui que le Fils a libéré est réellement libre. Oui, monsieur. Eh bien, mon pasteur, il ne s'agit pas de ça. La Bible dit, vous êtes libre. C'est vrai, vous êtes libre. Mon Église, eh bien, faites-vous délier. Il nous a lavés et déliés de nos dénominations dans son propre sang et nous a rendus libres afin que nous puissions penser par nous-mêmes, œuvrer par nous-mêmes, parler par nous-mêmes et agir par nous-mêmes. Eh bien, si je retournais trouver le pasteur pour lui dire qu'il faudrait que je sois rebaptisé, qu'en est-il de « vous êtes libre » C'est une révélation, vous savez. Très bien, vous êtes libre. Si vous avez été aspergé avec une salière comme ceci au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, il y a ici ce matin un baptistère qui est prêt avec de l'eau. Voyez, oui monsieur, cela n'est pas vrai. Alors, vous n'êtes plus lié, vous êtes libre, mais vous ne le savez peut-être pas. Mais laissez-moi vous dire ce matin, la Bible dit, il nous a déliés de nos péchés, de notre incrédulité, pour que nous puissions recevoir la révélation de Jésus-Christ. Repartez libre. N'êtes pas obligé d'accepter ce qu'une église quelconque dit à ce sujet. Acceptez ce que Dieu dit à ce sujet. Voici sa révélation qui révèle qui il est. J'ai toujours cru que Dieu le Père avait une longue barbe blanche, des cheveux blonds, et que le Fils était d'âge moyen, et que le Saint-Esprit était le garçon mascotte. Frère, ça c'est du paganisme. C'est païen si vous croyez en trois dieux. Le tout premier commandement. Quel est le premier commandement? Écoute, ô Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, un seul Dieu. C'est ça. Il est un seul Dieu, pas trois dieux. Il a vécu dans trois fonctions, servi à trois endroits. Il est prophète, sacrificateur et roi. Il est aigle, agneau et lion. Il est le lys de la vallée, la rose de Saron. Le lys de la vallée est l'étoile du matin. Le rejeton est la postérité de David. Il est de A à Z. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est tout cela, mais il est un. Il est un seul Dieu. Ça, ce sont ses titres qui s'appliquent à lui. Mais il y a un seul Dieu. Il n'y a personne, nulle part dans les pages de la Bible, ni dans l'histoire, qui ait jamais été baptisé par immersion au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, jusqu'à l'Église catholique. Si vous pouvez me montrer la page ou quelque chose, écrivez ça et posez-le ici ce soir, pour moi, et je sortirai de cette église en disant, « Je suis un hypocrite, j'aime mal enseigner les gens. » Si vous pouvez me montrer un passage de l'Écriture ou m'apporter un récit historique authentique qui me montre où les gens dans la Bible auraient été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ou bien apportez-moi une écrit ou un livre d'histoire, une page, une citation dans un récit historique où quelqu'un aurait été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, jusqu'au concile de Nicée de l'Église catholique. Venez me l'apporter. Et je me mettrai un écriteau dans le dos et je traverserai Jeffersonville à pied et vous me suivrez en klaxonnant. J'inscrirai dessus « Faux prophète qui induit les gens en erreur ». Et vous, pasteur, si vous êtes ici ce matin et si c'est ce que vous feriez, laissez-moi vous le faire aussi. Voyez, venez, montrez-moi. Mais vous avez peur. Alors, qu'est-ce que c'est? Ceci, c'est la révélation. Ceci, c'est la révélation. Et ceci, c'est le Saint-Esprit, Christ, qui envoie son message aux églises. Écoutez-le, écoutez-le. C'est ce que la Bible enseigne. Comment cela est-il arrivé? Si vous ne vous fâchez pas, que vous ne partez pas pendant la semaine, prenez les conciles de Nicée, prenez les deux Babylones de Hyslop, prenez... Or, le récit historique de Joseph est bon, mais il a écrit seulement un paragraphe sur Christ. Il a dit, il y avait un homme appelé Jésus qui allait ici et là, guérissant les malades, et il est mort. Non, Pilate l'a tué, ou Hérode, ou l'a mis à mort. Et ensuite, les disciples sont allés voler son corps et l'ont caché. Et alors, chaque soir, ils allaient en couper un morceau pour le manger. Il a dit, c'était des cannibales. En fait, ils prenaient la communion, vous voyez. La pensée charnelle. Joseph n'est pas quelqu'un à écouter. Mais prenez le livre des martyrs de Fox. En voilà un bon qui est authentique. Le livre des martyrs de Fox. Combien l'ont déjà lu? Bien sûr, les âges primitifs de Pemper, ou les deux Babylones d'Islop, ou un bon ouvrage authentique, ou le meilleur que nous ayons, c'est le Concile de Nicée, le Concile d'avant Nicée et le Concile de Nicée. Et vous verrez là que ça n'a jamais été mentionné, aucune personne. Prenez les Saintes Écritures et voyez si quelqu'un dans la Bible a déjà été baptisé en employant ses titres, le nom Père, Fils et Saint-Esprit. Cela désigne trois dieux. C'est pour une cérémonie païenne. Et le catholicisme n'est absolument rien d'autre qu'une forme païenne du christianisme. Et de l'Église catholique sont sortis Martin Luther, John Wesley, les baptistes, les presbytériens et tout le reste. Mais dans les derniers jours, une porte a été placée là, entre les deux, pour présenter de nouveau la vérité que c'est ce que la Bible dit. Et le grand prophète qui devait venir sur la terre dans les derniers jours. Nous croyons qu'il va venir. Regardez bien. Et il aura une église. Bon, nous verrons cela. Eh bien, souvenez-vous, cela, c'est la révélation. Vous ne pouvez rien en retrancher. Alors, quel défi! Trouvez une seule personne dans la Bible, un seul endroit où on ait baptisé quelqu'un au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ou aspergé quelqu'un pour la rémission de ses péchés. Trouvez ça dans la Bible. Jamais. Et chaque personne, peu importe comment elle avait été baptisée, a dû venir pour être rebaptisée au nom de Jésus-Christ, pour recevoir le Saint-Esprit. Acte 19. Paul a traversé les contrées supérieures d'Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il a dit, les disciples, ils avaient de glorieuses réunions. Ils suivaient un homme qui s'appelait Apollos, qui était un homme de loi converti. Un baptiste qui croyait en Jean-Baptiste et qui démontrait par les Écritures que Jésus était le Christ. Paul a traversé cet endroit et a vu Aquilas et Priscille au chapitre 18 des Actes. Puis, il est allé dîner ou quelque chose comme ça avec Aquilas et Priscille. Ils lui ont parlé de ce grand homme. Ils sont allés l'écouter. Il l'a écouté ce soir-là. Il a dit, il est très bien, c'est très bien. C'est bon, mais il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Qu'en est-il de vous, pauvre baptiste là-bas, qui croyez recevoir le Saint-Esprit quand vous croyez? Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Quelqu'un a dit, cela n'a pas été écrit là-dedans. Je conteste cela. J'ai ici le grec authentique, aussi l'hébreu. La Bible dit en grec et en hébreu, les deux, et aussi en araméen. Dans tous les trois, je les ai ici même. Il est dit, Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? C'est vrai. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Alors il a dit, nous ne savons pas qu'il y a un Saint-Esprit. Alors il a dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit, nous avons déjà été baptisés par l'homme qui avait baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été baptisés du baptême de Jean, peut-être de la même nappe d'eau, le même homme. Paul a dit, ça ne marchera pas. Il baptisait seulement pour amener à la repentance, pas pour la rémission des péchés. Maintenant, certains d'entre vous, unitaires, vous arrivez là et baptisez de la mauvaise manière. Vous baptisez pour amener, pour le salut. L'eau ne sauve pas un homme, c'est le sang, la repentance. Pas par le baptême pour la régénération. Non, monsieur, la régénération vient par l'esprit. Le baptême est une expression extérieure de l'œuvre de régénération accomplie à l'intérieur. Voyez? Très bien, remarquez, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Il a dit, nous ne savons pas qu'il y a un Saint-Esprit. Il a dit, comment avez-vous été baptisés? Il a dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Il a dit, en vérité, Jean a baptisé pour amener à la repentance, disant que vous devriez croire en lui, l'agneau, le sacrifice qui devait venir, croire au Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils ont entendu cela, ils ont été rebaptisés au nom de Jésus-Christ. Et Paul leur a imposé les mains, et ils ont reçu le Saint-Esprit, parlé en langue et prophétisé. Dites-moi que ce n'est pas l'Écriture, et montrez-moi où quelqu'un a déjà été baptisé autrement, dans le Nouveau Testament, qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Montrez-moi, Saint Agabus et beaucoup, il y en avait d'autres, qui ont été baptisés et qui ont continué à l'être jusqu'au temps du Concile de Nicée. Et chacun a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Les missionnaires ont labouré les champs avec le nom de Jésus-Christ. Mais quand le Concile de Nicée est arrivé, il leur fallait trois dieux. Ils ont retiré Paul, ou ont retiré Jupiter et mis Paul à la place. Ils ont retiré Vénus et mis Marie à la place. Ils avaient toutes sortes de dieux, toutes sortes de saints et tout le reste. Et ils ont fait un baptême train et l'ont donné à manger aux protestants. Et ils continuent à avaler ça tout rond. Mais maintenant, les lumières du soir sont venues. Le prophète a dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. Oh, au temps du soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là tu le trouveras. C'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui. Ensevelie dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera certainement en vous. Les lumières du soir sont venues. Oui, c'est un fait que Dieu et Christ sont un. Vous le croyez? Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, « Sachez ceci, maison d'Israël, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Verset 16 du chapitre 2. Oui, Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. J'ai parlé à un juif il n'y a pas longtemps, ici, à la maison de David. Il a dit, « Vous, des nations, ne pouvez pas couper Dieu en trois et le donner à un juif. Nous nous y connaissons mieux que ça. » J'ai dit, « Rabbin, c'est tout à fait ça. Nous ne coupons pas Dieu en trois. » J'ai dit, « Croyez-vous les prophètes ?» Il a dit, « Certainement. » J'ai dit, « Croyez-vous Ésaïe 9:6 ?» Il a dit, « Oui. » J'ai dit, « De qui le prophète parlait-il ? » Du Messie. J'ai dit, « Que sera le Messie par rapport à Dieu ?» Il a dit, « Il sera Dieu. » J'ai dit, « C'est vrai. Amen. » Voyez, voilà, c'est ça. Voyez, vous ne pouvez pas le couper en trois. Si vous, les missionnaires ici, l'un d'entre eux ici, va vers les Juifs, je crois, cet homme assis ici, n'essayez jamais de donner Père, Fils et Saint-Esprit à un Juif. Il vous dira tout de suite qu'il sait d'où cela vient, du Concile de Nicée. Il n'écoutera pas ça. Mais faites-lui voir que Dieu a été fait chair et qu'il est le seul Dieu qui existe. Dieu a été fait chair dans une forme humaine, a vécu parmi nous pour nous sanctifier, a été ôté afin que lui-même puisse venir sous la forme du Saint-Esprit. Dieu, le Père, le Saint-Esprit, ce sont la même personne. La Bible dit dans les généalogies de Jésus-Christ, au chapitre 1 de Matthieu, elle dit, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et ainsi de suite. Il est dit, et ensuite, oh, laissez-moi le lire, et alors vous saurez de quoi je parle. Matthieu, chapitre 1. Et nous, maintenant, commençons au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte avant qu'ils eussent habité ensemble. Par la vertu de Dieu le Père, est-ce formulé comme ça? Se trouva enceinte par la vertu de qui? Du... Je croyais que Dieu le Père était son Père. Alors Dieu, le Père et le Saint-Esprit sont le même Esprit. Sinon, il aurait eu deux Pères. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulant pas la diffamer, se proposa rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de Dieu le Père, hein, du Saint-Esprit. » Alors, qui était le Père de Jésus-Christ? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est en vous? Eh bien, c'est aussi Dieu, le Père, n'est-ce pas? Bien sûr. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Voici Dieu le Père, voici Dieu le Saint-Esprit, et voici Dieu le Fils. Voyez, ce sont trois dieux. La Bible ne dit pas ça. Ces deux doivent être les mêmes. Sinon, il avait deux pères. Voyez, il ne peut pas avoir deux pères, vous le savez. Bon, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça, c'est Matthieu chapitre 1, Matthieu 28, 19, où Jésus dit « Allez, baptisez au nom du Père, Fils et Saint-Esprit ». Quel est le nom du Père, Fils, Saint-Esprit? Jésus-Christ, bien sûr. Vous lisez une histoire d'amour. Elle dit, Jean et Marie vécurent heureux. Qui sont Jean et Marie? Reprenez l'histoire au début pour le découvrir. S'il n'y a rien comme ça, pas de nom, Père, Fils ou Saint-Esprit, alors qui? De qui est-ce le nom? Reprenez l'histoire au début et voyez de qui il parlait. Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Il avait la révélation. Jean avait la révélation. Jésus était la révélation. Il s'est présenté ici même, dans ce passage de l'Écriture. Je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Bien, maintenant, prenons vite le verset 7, maintenant, avant de sortir, aussi vite que possible. Le Tout-Puissant, puissant, la gloire et la puissance, au siècle des siècles, Amen, et qui fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous voyez cette révélation-là, comment cela est révélé, comment Dieu, les hommes se grattent la tête et s'arrachent les cheveux et tout, en cherchant à découvrir ce qu'est Père, Fils, Saint-Esprit. Ils en mettent trois dans un. Ne vous arrachez pas les cheveux et ne vous grattez pas la tête. Levez simplement les yeux. La révélation vient d'en haut. C'est vrai, il révélera que ce n'est pas Père, Fils et Saint-Esprit. Ce sont trois fonctions dans lesquelles a vécu un seul Dieu. Il était dans la fonction Esprit, lui tout seul, parce que l'être humain se dégrade continuellement. Alors il s'est fait lui-même un corps et a vécu pour produire son propre sang, pas par un acte sexuel, comme dans le jardin d'Éden, mais pour produire un corps qu'il a créé. Et par ce corps né d'une vierge, il a donné un sang qui nous a sanctifiés et nous a déliés de notre incrédulité, afin que nous croyions en lui. Alors, nous faisons cela. Nous le recevons dans notre cœur. C'est Dieu en nous. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez, tout comme prophète, sacrificateur et roi. C'est la même chose. Bien, maintenant, le verset 7, c'est l'annonce. L'annonce, c'est « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre, se lamenteront à cause de lui. » Oh, il nous reste combien de temps? C'est tellement beau. Pourriez-vous me donner encore 30, 20 minutes? Vraiment? Très bien. Alors bon, demain, ce soir, nous allons essayer de prendre la fin de la vision de Patmos. Ce soir, aujourd'hui, nous allons terminer l'annonce. Oh, vous vous sentez bien? Vous aimez cette vieille Bible? C'est la révélation. Qu'est-ce que c'est? Dans ce livre, Dieu descend, retire le voile et dit, « Le voilà, prophète, sacrificateur, roi, Père, Fils, Saint-Esprit, celui qui était, qui est et qui vient. Toutes ces choses, c'est Dieu. » Maintenant, retirons le voile pendant quelques minutes avec l'aide du Seigneur. Retirons le voile de nos yeux et prenons « Voici, il vient avec les nuées ». Maintenant, comment vient-il ? Avec les nuées. Quelle sorte de nuées ? Des nuées de gloire. Pas un de ces cumulonimbus, un nuage de pluie, mais des nuées de gloire. Observez quelle sorte de nuées l'enveloppait quand Pierre et les autres ont une vision de lui sur la montagne de la Transfiguration. Une nuée l'a enveloppé. Ses vêtements resplendissaient. Il était enveloppé d'une nuée, la puissance de Dieu. Oh, nous allons aborder cela, là, dans ces âges de l'Église. Je vous le dis, cela me réjouit au plus profond de mon être. Quand j'y pense, ce que sa venue, je vois le jour dans lequel nous vivons, où il ne reste rien, aucune espérance, si ce n'est sa venue. Maintenant, nous allons vite prendre ceci. Maintenant, souvenez-vous, tout œil le verra. Alors ça, ce n'était pas l'enlèvement, n'est-ce pas? Voyez, ce n'était pas l'enlèvement. Ce n'était pas l'enlèvement. De quoi parlait-il? De la seconde venue. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre, se lamenteront à cause de lui. Maintenant, on va revenir en arrière et prendre un peu d'histoire. Revenons à Zacharie et prenons le chapitre 12 de Zacharie. Zacharie, très bien. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui seraient sauvés. Combien nous sommes reconnaissants de la bonne révélation de Jésus-Christ. N'êtes-vous pas heureux de l'avoir? Maintenant, nous allons mettre ceci sous forme de livre aussi vite que possible pour les gens. Et alors, vous pourrez l'avoir pour le lire dans la tranquillité de votre chambre ou autre. Et l'étudiez vous-même à fond. Très bien. Zacharie, le chapitre 12, maintenant de Zacharie. Maintenant, nous voulons aborder ceci vraiment dans un esprit de prière. Et je veux prendre ceci pour la gloire de Dieu. Bon, Zacharie 12, commençons au verset 9. Maintenant, écoutez attentivement. Il parle de la venue. Zacharie 12, et nous commencerons au 9, au verset 9. « En ce jour-là, Zacharie prophétise là 487 ans avant la venue de Christ. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes nations qui viendront contre Jérusalem. Pensez-y. Alors, je répandrai là sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Donc, quand l'Évangile retourne-t-il vers les Juifs? Quand le temps des nations est terminé, alors l'Évangile est prêt à aller vers les Juifs. Oh, je pourrais, si seulement je pouvais vous prédire un petit quelque chose qui est sur le point d'arriver, juste en ce moment, voyez, juste en ce jour-ci. Vous voyez, c'est sur le point d'arriver. Nous le trouvons dans l'âge de l'Église. Et cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver mènera jusqu'à Apocalypse 11 et continuera avec ces deux prophètes, Élie et Moïse, qui reviennent pour les Juifs. Nous sommes prêts pour ça. Tout se met en place. C'est prêt. Ce message des nations, de même que les Juifs l'ont apporté aux nations, les nations le ramèneront directement aux Juifs. Et l'enlèvement aura lieu. Maintenant, souvenez-vous, ce qui a lieu ici, après la tribulation. L'Église ne passe pas par la tribulation, nous le savons. La Bible dit, voyez? Bien. Alors, il répondra là sur la maison d'Israël, quoi? Le même Saint-Esprit, voyez? Après que l'Église des nations sera partie. Et ils ont tourné les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et en ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem et le deuil dans la vallée de Megiddon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et la famille de la maison de Nathan séparément, et chacune des maisons séparément. Quand ils verront ce qui va arriver, ce qui se produira quand il viendra dans les nuées de la gloire, à sa seconde apparition, et quand ces Juifs qui l'ont percé, Vous savez, un autre passage de l'Écriture dit qu'ils lui demanderont où il a reçu ses blessures. Il dira, dans la maison de mon ami. Et ça ne sera pas seulement un temps de deuil pour les Juifs qui l'ont rejeté en tant que Messie, mais ce sera un temps de deuil pour les gens des nations laissés ici, qui ont accepté, qui l'ont rejeté en tant que leur Messie de ce jour-ci. Il y aura des lamentations et des pleurs. La Vierge endormie se lamentera. C'est cette Église qui a refusé de recevoir de l'huile dans sa lumière. Il y avait 10 vierges qui étaient sorties, toutes de braves gens, mais 5 d'entre elles avaient de l'huile dans leur lampe. Les 5 autres étaient de braves gens, mais elles n'ont pas réussi à recevoir de l'huile dans leur lampe. Elles furent jetées dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des lamentations et des grincements de dents. Nous y voilà, il y aura des lamentations. La Bible dit ici, ils se lamenteront et auront le cœur tellement brisé que même, tenez, je vais vous en donner un autre. Genèse 45, si vous voulez le prendre. Allons-y un instant et lisons aussi cela dans la Genèse. Le chapitre 45 de la Genèse. J'aimerais prendre ceci. Joseph qui se fait connaître à sa famille. Nous allons le prendre et montrer les types de ce qui arrivera en ce jour-là. Ensuite, nous allons relier tout ça. Joseph ne pouvait plus se contenir devant ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Maintenant, souvenez-vous, Joseph, alors qu'il allait se faire connaître, s'est écrié, « Que tout le monde sorte !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Il doit avoir crié fort. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père, vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés par sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne soyez pas affligés et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Oh, comme c'est beau! Voilà 2 ans que famine est dans le pays et il n'y aura là ni épi ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Laissez-moi prendre ça maintenant et le comparer avec Zacharie 12. Juste un instant. Or, nous connaissons cela en type. Si vous enseignez les types, alors vous le comprendrez toujours correctement, je crois, en type. Donc, Joseph, quand il est né, il a été haï par ses frères. Pas vrai? Maintenant, je veux vous montrer. Joseph représente l'Église remplie de l'Esprit. Joseph a été haï par ses frères. Pourquoi? Parce qu'il était spirituel. Joseph n'y pouvait rien s'il avait des visions. Il n'y pouvait rien s'il avait des songes, voyez, et s'il savait interpréter des songes. Il sait ce qu'il y avait en lui. Il ne pouvait pas montrer autre chose que ce qu'il y avait en lui. Eh bien, alors, ses frères le haïssaient sans raison. Mais son père l'aimait, parce que son père était prophète. Vous voyez comment c'était avec Jésus? Dieu aimait son fils, mais les frères, les pharisiens, les sadducéens le haïssaient, parce qu'il pouvait guérir les malades, prédire des choses et avoir des visions, interpréter. Vous voyez ce que je veux dire? Ils l'ont haï sans raison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Joseph? Ils ont prétendu qu'il était mort. Ils l'ont jeté dans une fosse. Ils ont pris une tunique ensanglantée qui avait 7 couleurs. Que son père, il y a seulement 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, nous savons ce que... Nous allons y arriver un peu plus tard, je pense, ce soir. L'arc-en-ciel, au-dessus de lui, Jésus, là, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et il y avait un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel est une alliance. Et c'était l'alliance de Dieu sur Joseph. Et alors, ils ont taché sa tunique de sang et l'ont ramené à leur père. Il était censé être mort. Mais on l'a ressorti de la fosse et mis dans une vendue à Pharaon, quelqu'un en Égypte, et un général l'a gardé. Et après tout ça, quelque chose de fâcheux lui est arrivé et on l'a jeté en prison. Et là, il a prophétisé et a dit à 2 hommes où l'un irait et où l'autre irait. Les chansons et un et un panetier à cause de leur songe. Ensuite, on l'en a ressorti et il était élevé à la droite de Pharaon. Et personne ne pouvait s'approcher de Pharaon sans passer par Joseph. Regardez bien ceci. Bon, quand Joseph a été vendu aux Égyptiens, regardez bien, tout ce qu'il a fait était un type de Christ. Regardez cette chanson et ce panetier là-dedans. Et les deux ont eu des sons. Et Jésus, quand il était dans sa prison, souvenez-vous, Joseph était en prison. Et quand Jésus était dans sa prison, comment? Cloué à une croix. L'un a été sauvé et l'autre a été perdu. Joseph, quand il était dans sa prison, l'un a été sauvé, l'autre a été perdu. Et remarquez, alors, après avoir été descendu de la croix, Jésus a été élevé jusqu'au ciel. Et il est assis à la droite du glorieux Esprit. Jéhovah, nul ne peut venir à Dieu que par moi. Pas de « Je vous salue Marie », pas de « Bienheureux celui-ci » ou de « Bienheureux celui-là », mais par Jésus-Christ, le seul médiateur qu'il y ait entre Dieu et les hommes, ce précieux corps dans lequel Dieu avait fait sa demeure parmi nous, qui a pris le nom de Dieu. Et Dieu a pris le nom d'un humain. Dieu a pris... Regardez ici, au commencement, quand Adam... Je ne peux pas laisser ça de côté. On dirait que quelqu'un, quelque part, ne saisit pas cela. Regardez, au commencement, laissez-moi vous montrer de nouveau quelque chose. Le Saint-Esprit m'avertit et me conduit à faire ceci. Je quitte mon sujet un instant. Dès que la nouvelle est arrivée dans la gloire, que le fils Adam avait été perdu, Dieu a-t-il envoyé un ange? A-t-il envoyé un fils? A-t-il envoyé quelqu'un d'autre? Il est venu lui-même racheter son fils perdu. Alléluia! Dieu n'a confié ça à personne d'autre que lui. Dieu a été fait chair et a habité parmi nous et a racheté lui-même l'homme. C'est « Nous sommes sauvés, dit la Bible, par le sang de Dieu ». Le Dieu mortel était, le Dieu immortel est devenu mortel pour ôter le péché, pour être lui-même l'agneau, pour entrer voilé dans la gloire et avec son propre sang devant lui, au-delà du voile. Donc, Joseph, le voilà qui s'en va en Égypte. Et là, on l'a ressorti de prison. Et il était élevé à la droite de Pharaon et nommé intendant. Et tout a prospéré à l'époque de Joseph. Alors, quand Jésus reviendra, même le désert fleurira comme une rose. Il est le fils de la prospérité, un type de Joseph. On a mis Joseph, le général l'avait dans sa maison. Tout ce qu'il faisait prospérait. On l'a mis en prison et toute la prison a prospéré. Quoi qu'il fasse, il prospérait. Et quand il a été élevé à la position suprême à côté de Pharaon, adjoint de Pharaon, tout en Égypte a prospéré plus que partout ailleurs. Quand il reviendra, ce sera un pays de prospérité. Les anciens déserts fleuriront et il y aura de la nourriture partout. Et nous pourrons tous nous asseoir sous notre propre figuier et rire, et nous réjouir, et vivre pour toujours en sa présence, quand il reviendra en tant que roi. Il a été fils de l'homme, prophète. Amen. Il a été fils de l'homme, sacrifice, sacrificateur. Il est fils de l'homme en tant que roi, le fils de David, assis sur le trône de sa majesté. Fils de l'homme, il est ma... Dieu manifesté en tant que fils de l'homme. Il est descendu et est devenu homme pour ôter les péchés du monde. Il est devenu homme en tant que prophète. Il est devenu homme en tant que sacrificateur. Il est devenu homme en tant que roi. Roi du ciel, roi des saints, le roi éternel. Il a toujours été roi. Il sera toujours roi, le roi éternel. Maintenant remarquez, donc Joseph. Avant que Joseph aille quelque part, on devait premièrement sonner de la trompette. Et les gens criaient « Fléchissez le genou devant Joseph !» Peu importe ce qu'un homme était en train de faire, s'il vendait un produit dans la rue, quand cette trompette sonnait, il fléchissait le genou. Un homme s'apprêtait à sortir de l'argent de sa poche, mais il fléchissait le genou. Joseph arrivait. Oh, le bouffon était sur le point de faire son spectacle. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il devait s'arrêter. Joseph arrive. La trompette avait sonné. Un de ces jours, tout, même le temps, s'arrêtera. quand la trompette de Dieu retentira, que les morts en Christ ressusciteront et que poindra le matin éternel, resplendissant de beauté. Tous fléchiront le genou, tout genou fléchira et toute langue confessera cela. Commencez maintenant. Les péchés de certains hommes les précèdent, certains les suivent. Mais maintenant, remarquez ce qui s'est passé. Comme c'est glorieux. Quand Joseph, à ce moment-là, après qu'il a épousé une femme des nations, et reçu une famille, Éphraïm et Manassé, ses fils. Avez-vous remarqué à la fin, quand Joseph, Jacob, a commencé à bénir Éphraïm et Manassé, quand il a commencé à poser ses mains, il a placé Éphraïm à droite, Manassé à gauche, pour donner la bénédiction de la main droite aux plus âgés. Mais quand il a commencé à prier, ses mains se sont croisées et il a donné la bénédiction de la main droite au plus jeune, plutôt qu'à celui qui était à sa droite. Et Joseph a dit, « Pas ainsi, papa !» Il a dit, « Tu as placé la bénédiction sur Manassé plutôt que sur Éphraïm. » Et il a dit, « Dieu a croisé mes mains. » Quoi donc ? Des Juifs, les aînés, les premiers que Dieu a choisis. Par la croix, la bénédiction est venue aux gens des nations pour prendre l'épouse. La bénédiction est venue par la croix des Juifs aux gens des nations. Rejetés, ils ont rejeté la croix. C'est pourquoi il a pris l'épouse des nations. Bon, quand Joseph, avant ceci, quand il était, qu'il a eu des nouvelles de ses frères qui, ils avaient été privés de communion pendant de nombreuses années, les Juifs. Maintenant, regardez bien. Nous revenons maintenant à Zacharie, où ils se lamenteront. Ils seront dans le deuil et se lamenteront. Même des familles se sépareront d'autres familles. Elles partiront en disant, « Comment avons-nous fait ça? Comment avons-nous bien pu faire ça ?» Quand ils diront, « D'où te viennent ces cicatrices, ces marques aux mains, même ceux qui l'ont percé ?» Il viendra dans les nuées et ils le verront, même ceux qui l'ont percé. Et chaque maison sera dans le deuil et ils se lamenteront. Ils ne sauront que faire. Et quand Joseph, vous connaissez l'histoire, quand il a vu ses frères, il a fait semblant de ne pas connaître l'hébreu et il a demandé à l'interprète d'interpréter pour lui. Il agit comme s'il ne connaissait pas l'hébreu, mais il voulait savoir quelque chose. Et alors, quand finalement, un jour, quand ils ont amené son jeune frère, avez-vous remarqué, c'était Benjamin qui a embrasé l'âme de Joseph. Qu'est-ce qui embrasera son âme aujourd'hui à notre Joseph, Jésus? Cette jeune église qui était là-bas en Iran, qui a gardé les commandements de Dieu. Et c'est un peuple nouveau-né qui s'est rassemblé en Palestine et qui a été restauré. Cette étoile de David à six pointes, le plus vieux drapeau du monde. Une nation est née ces dernières années. Voilà Israël. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Les signes que la Bible a prédits. Les jours des nations sont comptés. Ils sont remplis d'effroi. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Regardez un peu, tous sont devenus des névrosés. Soyez remplis de l'esprit, votre lampe préparée est lumineuse. Levez les yeux, votre rédemption est proche. Les faux prophètes mentent. Ils nient la vérité de Dieu. Que Jésus-Christ est notre Dieu. Gloire, mais la révélation est venue. Alors, nous suivrons les traces des apôtres, exactement là où ils ont marché. Car le jour de la rédemption est proche. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Soyez remplis de l'esprit. Votre lampe préparée est lumineuse. Levez les yeux. Votre rédemption est proche. Oh, oh Joseph, quand il a vu le jeune Benjamin qui se tenait là, c'est son jeune frère. Vous voyez maintenant le jeune Benjamin là, tout là-bas, qui se tient là? Les tribus de la terre, des Juifs, sont retournés là-bas, où 144 000 d'entre eux se tiendront là pour accueillir Christ. Quand ils verront sa venue, ils diront, « Voici, c'est ici notre Dieu que nous avons attendu. » Alors ils verront celui qui était percé. D'où sont-elles venues? Il dira, c'est dans la maison de mon ami. Et ils se lamenteront et pleureront. Et chaque famille, les tribus de David, de Nephtali et toutes les autres se sépareront. Chaque famille et chacun pleurera quand ils le verront debout dans les airs, celui qu'ils ont percé. Quel sera son message? Observez ce que Joseph a dit. Quand il a dit, observez autre chose. Quand Joseph a eu les enfants devant lui, il les a regardés. Il a vu le jeune Benjamin. Il a vu Ephraïm. Il a vu les autres qui étaient là, Gad et tous les autres. Et les 12 tribus, à ce moment-là, les 10 tribus qui se tenaient devant lui. Il les a tous vus qui se tenaient là. Il savait que c'était ses frères. Et il a regardé le jeune Benjamin. Aussitôt, sa gorge s'est serrée. Il savait que c'était les siens. Qu'est-ce qu'il a dit? Que tout le monde sorte! Qu'est-ce qui est arrivé à sa femme et à ses enfants? Ils sont allés dans le palais. Où l'épouse des nations ira-t-elle à l'enlèvement? Dans le palais. L'épouse, alléluia! L'épouse sera retirée de la terre dans l'enlèvement. Alors, quand il reviendra, son épouse ne sera pas là. Quand il se fera connaître à ses frères, les Juifs, ceux qui l'ont percé, ceux qui l'ont rejeté. Mais sa femme, sa bien-aimée, ses amis intimes là, ses compagnons à lui, envoyés par Dieu, étaient dans le temple. Et quand il a regardé, il a dit qu'ils étaient, ils ne savaient pas. Ils ont dit, « Oh, ce grand prince !» Ils se sont mis à parler entre eux, oh, de ces choses qu'ils avaient faites. Je crois que c'est Ephraïm, ou pas Ephraïm, mais j'ai oublié maintenant qui c'était qui a dit, « Eh bien, nous n'aurions pas dû tuer notre frère Joseph. » Il a dit, « Vous voyez, on nous fait payer pour ce que nous avons fait. » Ruben, c'est Ruben qui a dit, « Nous n'aurions pas dû tuer notre frère. » Il a dit, « Parce que, vous voyez, on nous fait payer pour ce que nous avons fait. » Et Joseph qui se tenait là, ils n'ont pas pensé qu'il comprenait l'hébreu. Mais ils le comprenaient. Certains pensent, ne peuvent pas parler, comprendre le parler en langue. Mais lui connaît tout à ce sujet. Oui, lui connaît ça. Le royaume des nations a commencé avec le parler en langue et l'interprétation au temps de la tête d'or, la première tête, avant sa chute. Qu'est-ce qui a terminé cette première dispensation des nations? Une écriture dans des langues inconnues sur la muraille. Et un homme là a pu l'interpréter et dire ce que c'était. Ça se termine de la même manière. Amen. Ça commence et ça se termine de la même manière. Ils croyaient qu'ils ne pouvaient pas comprendre les langues qu'ils parlaient, mais ils les comprenaient. Ils ont dit, vous voyez ce qu'on a gagné? Et à ce moment-là, Joseph a vu qu'ils regrettaient ce qu'ils avaient fait. Maintenant, ils voient leur chagrin et leur regret de l'avoir rejeté. Alors sa gorge se serre maintenant. Il s'apprête à faire partir son église de la terre pour l'emmener dans la gloire. Ensuite, il reviendra. Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ruben et tous les autres se sont mis à pleurer. Ils ont dit, oh, oh, ils ont eu peur. Ils ont dit, c'est lui. Maintenant, on sait qu'on va le payer cher. Maintenant, il va nous tuer. Maintenant, nous savons que nous périrons maintenant. Parce que celui-là, c'est Joseph, qui était si longtemps loin de nous. C'est Joseph, notre frère. Maintenant, nous allons vraiment le payer cher. Il a dit, ne soyez pas fâchés contre vous-même. C'est Dieu qui a fait ceci pour vous sauver la vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pourquoi les Juifs ont-ils rejeté Jésus? C'est afin que nous, des nations, afin que le peuple qu'il a appelé à sortir à cause de son nom, Dieu a fait cela pour sauver la vie de l'Église des nations. L'épouse, toutes les tribus qui l'ont rejeté seront dans le deuil. Ils se cacheront dans les cavernes, dans les rochers et tout. Ils diront, montagne, cachez-nous, tombez sur nous. Ils l'ont rejeté, lui. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Chaque famille en Israël se séparera. Les familles se sépareront les unes des autres et diront, pourquoi avons-nous fait ça? Comment se fait-il que nous l'ayons rejeté? Comment? Il se tient là. Voilà le Dieu que nous avons attendu. Et le voici avec des marques de clous aux mains. Et c'est nous qui l'avons fait. C'est exactement ce que ses frères ont dit là-bas. Quand ils sont revenus et qu'ils ont dit, voilà Joseph que nous avons vendu. Il a dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Oh, ils étaient effrayés, ils étaient dans le deuil et se lamentaient. Ils couraient les uns vers les autres. Que pouvons-nous faire? Il a dit, ne soyez pas fâchés contre vous-même, parce que c'est Dieu qui a fait tout cela. Dieu m'a envoyé en avant. Dieu a créé tous les hommes, les blonds, les noirs, les bruns, les jaunes, chaque homme. Dieu a créé chaque homme. Il a créé l'homme des nations, il a créé le juif, il les a tous créés. Tout est pour sa gloire. Il fallait que les juifs le rejettent afin de prendre une épouse des nations. C'est pour ça qu'il y a tous ces types. Alors l'épouse des nations et ses rejetons avec elle, cette glorieuse église pentecôtiste lavée dans le sang de l'agneau, avec toute la puissance de la résurrection vivant en eux, s'élèvera un jour dans l'enlèvement, en un instant, en un clin d'œil, pour aller dans la présence de Jésus, lorsqu'il revient et fait sortir tout le monde, pour se faire connaître à ses frères. Regardez ce que l'Écriture dit ici, pour terminer. Oh, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Maintenant, il parle de la seconde venue, pas de l'enlèvement. Même ceux qui l'ont percé, chapitre 7, verset 1, ou verset 7 du chapitre 1, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Ensuite, il donne cette belle citation. Qui est-ce qu'ils vont attendre? Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le A et le Z. Le A et le Z en grec, dans l'alphabet grec. Acte 2, 36. Pierre a dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel les hommes doivent être sauvés. Ou, non, pardonnez-moi, je ne l'ai pas cité correctement. Il a dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Jean 14, 7 et 12, Thomas a dit, « Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. » Il a dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas ?» Il a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-moi le Père ? Moi et mon Père, nous sommes un. » Une fois, j'ai dit ça à une personne. La dame a dit, « Un instant, Monsieur Branham. » Elle a dit, « Vous et votre femme, vous êtes aussi un. » J'ai dit, « Mais pas de la même façon. » Elle a dit, « Je vous demande bien pardon. » J'ai dit, « Est-ce que vous me voyez ?» Elle a dit, « Oui. » J'ai dit, « Vous voyez ma femme ?» Elle a dit, « Non. » J'ai dit, « Alors, ils le sont de façon différente. » Lui a dit, « Quand vous me voyez, vous avez vu le Père. » Alors, ça suffisait comme ça. Alors dans Jean, ou 1 Jean 5, 7 et 8, vous tous qui le notez, 1 Jean 5, 7 et 8, la Bible dit, celui qui parlait, le même homme qui a écrit cette révélation, que Jésus lui a donnée, il a dit, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole c'est le Fils, le Père, la parole et le Saint-Esprit, et les trois sont un. Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'eau, le sang et l'Esprit. Et ils sont d'accord. Pas ils sont un, mais ils sont d'accord. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Père ou le Fils sans avoir le Saint-Esprit. C'est vrai. Mais vous, et l'eau, le sang et l'Esprit, ce sont les éléments qu'il faut pour entrer dans son corps. Quand une naissance naturelle se produit, quelle est la chose qui arrive en premier quand une femme donne naissance à un bébé? La première chose, c'est l'eau. La seconde chose, c'est le sang. Pas vrai? La chose suivante, c'est l'Esprit. Le bébé prend son souffle, se met à respirer. L'eau, le sang et l'Esprit. Cela constitue la naissance naturelle. Aussi, la naissance spirituelle. Le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. La justification par la foi. Croire au Seigneur Jésus-Christ. L'eau, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Le sang, la sanctification, le nettoyage, faire sortir. C'est là que vous, les Nazaréens, avez failli. Vous êtes allés jusque-là et n'êtes pas allés plus loin. Le vase qui est sanctifié sur l'autel est prêt pour le service, mais pas en service. Heureux ceux, les béatitudes, qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Le vase est sanctifié, c'est vrai. C'est comme la Vierge. Le mot « Vierge » signifie « pur, saint, sans mélange, sanctifié ». Cinq avaient de l'huile et cinq n'en avaient pas. Cinq étaient remplis et les autres en sont simplement restés à la sanctification. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Vous, baptistes, presbytériens? Nous ne savons pas qu'il y a un Saint-Esprit. Alors, comment avez-vous été baptisés? Ah oui, après qu'il aura imposé les mains, c'est alors, après avoir été sauvés et sanctifiés, qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est vrai. l'eau, le sang, l'esprit. Jésus est venu pour laver, pour purifier et pour sanctifier une église, afin de pouvoir venir vivre en elle, avec son propre sang. Il a donné son propre sang, né de Dieu, afin de pouvoir nous purifier de notre naissance sexuelle et nous donner un vase sanctifié et saint dans lequel il puisse venir lui-même. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je, un pronom personnel, serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de toute chose. Amen. Jusqu'au bout, je serai avec vous et en vous. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Dieu dans l'Église. Oh là là, la divinité. Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole, le Fils, le Saint-Esprit. Ils sont un. Or, vous pouvez être sauvé sans être sanctifié. Vous pouvez être sanctifié et ne pas avoir le Saint-Esprit. C'est vrai, un esprit sanctifié sans être rempli. Vous sanctifiez votre cœur, purifiez votre cœur sans le remplir de quelque chose. C'est ce qu'il a dit. Lorsque l'esprit est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides. Il revient, trouve sa maison toute ornée et l'entre. La dernière condition de cette personne est bien des fois, sept fois, pire que la première. Voilà ce qui vous est arrivé à vous, pèlerins de la sainteté, nazaréens et les autres. Vous avez accepté, et quand le Saint-Esprit est venu, qu'il a commencé à parler en langue, à donner des signes et à accomplir des prodiges, vous avez appelé ça le diable. Et vous avez blasphémé les œuvres de Dieu en appelant ça une chose impure. Et vous voyez où votre église est allée? Sortez du milieu d'elle! L'heure est arrivée! La révélation de Jésus-Christ est en train d'être enseignée. Dieu révélé dans la puissance de ses démonstrations du Saint-Esprit. Amen. Le jour de la rédemption est proche. Maintenant, la divinité en lui. 1 Timothée 3:16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Oh, ça continue encore et encore. Mais où en sommes-nous maintenant? À la fin du verset 8. Ce soir, nous commencerons au verset 9, la vision de Patmos. Oh, il y a de grandes choses en réserve pour nous. L'aimez-vous? Vous le faites vraiment? Est-ce que Dieu s'est fait connaître à vous? Est-ce qu'il s'est révélé comme étant le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Dieu manifesté dans la chair, pour ôter le péché? Il se révèle en ces derniers jours dans ces églises. Il se fait connaître. Maintenant, ces choses qui se passent dans l'église, regardez bien et voyez, à la fin de ce message, si la Bible ne dit pas que ces choses doivent se produire à la lettre. Voyez si elles ne se sont pas produites à la lettre dans l'âge d'Éphèse, de Pergame, de Thyatire et ainsi de suite dans chaque âge. Cela dit comment Luther agirait et comment Wesley agirait et comment cette dénomination pentecôtiste tomberait dans un état de tiédeur de Laodicée. Mais qu'au milieu de tout ça, il attirerait les gens. C'est vrai, c'est exact. Nous sommes à la fin. Oh, je suis si content. Oh, quand je vois que je m'affaiblis, et je regarde mes amis et tout, et je vois le monde et le chaos dans lequel ils se trouvent, alors je pense que la venue du Seigneur devient si proche. Nous sommes à la fin de là. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Partout, tout le monde, à la radio, il y a tout le temps des informations alarmantes. Soyez prêts pour une attaque aérienne. Prenez ceci, prenez cela, et descendez au sous-sol. Comment allez-vous vous cacher de cela? Vous ne pouvez pas vous cacher de cela. Eh bien, cette chose s'enfoncera 50 mètres sous terre, sur un carré de 240 kilomètres. En effet, l'onde de choc provoquée par cela, si ça tombait ici, ça détruirait complètement Indianapolis. En effet, ça pulvériserait Indianapolis. Si ça tombait ici, à Louisville, voyez, l'une de ces choses, c'est difficile de dire ce qu'ils ont encore d'autre. Et regardez, vous n'avez pas à, vous savez, ce n'est pas forcément la Russie qui doit le faire. Cuba peut le faire. N'importe quel territoire minuscule, un territoire minuscule de la taille d'Alcatraz, là-bas, pourrait le faire et atteindre le monde entier. Il suffit de l'orienter dans la bonne direction et de tirer une ficelle. Vous n'avez pas besoin d'une armée. Vous avez seulement besoin d'un fanatique entre les mains du diable pour le faire. C'est exact. Lui le ferait. Et alors, c'est la fin de tout. C'est la fin de tout à ce moment-là. Mais, oh, laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous bénir. Quand nous voyons que c'est tellement près, quand nous voyons que cela peut arriver avant demain matin, souvenez-vous, l'Église rentre à la maison avant que cela n'arrive. L'enlèvement se produit avant. Maintenant, pour que vous ne soyez pas tout embrouillé, souvenez-vous, Jésus a dit ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Lot. Souvenez-vous, avant que la pluie tombe, Noé était dans l'arche. Voyez ? Noé était dans l'arche. Il a été transporté par-dessus tout cela pendant que ces choses arrivaient. Et là, Noé était un type des Juifs. Mais Enoch, lui, est rentré à la maison sans mourir. Et quand Noé a vu Enoch partir, il a su que c'était le moment de commencer la construction de l'arche. C'est vrai, c'était un signe pour Noé quand Enoch est rentré à la maison. Et dès que l'Église des nations est enlevée, alors il se fait connaître à Israël. Voyez, c'est vrai. Souvenez-vous du temps de Lot, comme Jésus l'a dit, avant même qu'une étincelle de feu touche la terre. L'ange a dit, « Hâte-toi, dépêche-toi, sors d'ici, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois parti d'ici. » Avant que le feu ne frappe, Lot et sa famille étaient sortis et partis. Donc, l'enlèvement arrivera avant que la tribulation commence. La tribulation, bien des gens mélangent ces choses. Nous allons rectifier cela cette semaine, si le Seigneur le veut, avec l'aide du Seigneur. Souvenez-vous, vous attendez une période de la grande tribulation. C'était, si vous en cherchez le type dans la Bible, c'était le temps de la détresse de Jacob. Vous voyez, quand il était dans la détresse, cela n'avait rien à voir avec les nations. Les nations n'avaient rien à voir avec cela. Il n'y a aucun type dans la Bible pour cela. L'Église des nations est enlevée. Et vous attendez que l'eau se change en sang et des choses comme cela. Cela se produira de nouveau en Israël, là-bas, avec Moïse et Élie, quand ils reviendront. Élie, pour la quatrième fois, reviendra avec cet esprit-là. Aucun des deux n'est mort, ou Moïse est mort. On n'a pas su où il avait été enterré. Il est forcément ressuscité quelque part entre-temps, parce que, sur la montagne de la Transfiguration, il était là, parlant à Jésus. Pas vrai? Voyez? Donc, ils reviendront et seront tués. Leurs cadavres seront dans la rue, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome, là où notre Seigneur a été crucifié, Jérusalem. Ils prêcheront aux Juifs, frapperont la terre et fermeront les cieux, et tout le reste comme cela. Et à la fin du ministère des nations, le ministère se poursuivra et se reliera à cela. Les gens des nations rentreront à la maison, et ce ministère continuera. Toutes choses connaîtront un destin funeste. Les deux tiers de la terre tomberont, et tout le reste. Quand ces cadavres seront dans la rue, pendant 3 jours, regardez bien comment ça s'est fait. Regardez ces photos que j'ai reçues de l'Amérique du Sud, quand ils ont tué là-bas ce missionnaire pentecôtiste. Sa femme, il gisait dans la rue, lui et 2 jeunes enfants, la fillette avec son petit ventre gonflé comme ça. Ils n'ont même pas voulu les enterrer. En passant à côté d'eux, ils leur crachaient dessus, comme ça, pendant 3 ou 4 jours. C'est frère Kopp qui a pris les photos. Je les ai à la maison. Vous voyez comme ils font. Alors, ils s'enverront des présents les uns aux autres. Regardez ces types dans la Bible. Voyez quelle église va faire ça. C'est vrai, c'est tout proche. C'est en train de s'infiltrer là, en ce moment, comme un serpent, rusé au possible, le signe de choses qui se passent en ce moment. Regardez la prophétie que le Seigneur m'a donnée en 33. Comment ça arriverait? Il permettrait aux femmes de voter. En votant, elles éliraient la mauvaise personne. 7 choses ont été données et 5 d'entre elles se sont déjà accomplies. La chose suivante, c'était une femme imposante, une église, une puissance ou quelque chose comme ça qui prendra le pouvoir sur les États-Unis pour diriger. Ensuite, je les ai vus comme de la cendre là, quand c'en est arrivé à la fin. C'était le temps de la fin. Cela disait, ils auront une machine qui pourra rouler. Ils n'auront pas besoin d'y mettre un conducteur. Ils viennent de la mettre au point. Cela disait, 11 ans, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. C'est là, dans les journaux. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas en nier l'existence. C'est là, dans les journaux, comme le Saint-Esprit l'a dit, 11 ans avant la construction de la ligne Maginot. J'ai dit, les Allemands, l'Amérique va, le président Roosevelt sera le plus tordu de tous. Et c'est vrai, il l'a été. Pas pour blesser vos sentiments, à vous les démocrates, mais je vous le dis, il ne s'agit pas maintenant de démocrates ou de républicains, il s'agit de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est de lui dont nous parlons. Je ne suis ni démocrate ni républicain, je suis chrétien. Et donc, il, quoi que cela ait été, mais remarquez là, et regardez un peu, l'autre jour, si vous voulez voir quelle bande de renégats c'est, ils ont pris ces machines et les ont arrangées pour que, chaque fois que vous votiez pour M. Nixon, vous deviez voter en même temps pour cet autre gars. Ed, J. Edgar Hoover, a retiré ces machines. Combien ont lu cela? Mais bien sûr, tous les journaux en parlent, les nouvelles et tout le reste. Vous voyez où nous en sommes? Il n'y a plus rien d'honnête. Si ce n'est Christ. Amen. Oh, ce vieux livre béni, c'est ça. C'est le seul qui vous dise qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Oui, monsieur, c'est ce vieux livre béni. Oh, ça me pousse à l'aimer, lui. Pas vous?
Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake.
Amen. Quel grand jour nous attend, mes amis, la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donnée à son ange, qui est venu et l'a fait connaître à Jean, afin qu'elle soit connue à travers les âges de l'Église, la chose qui nous est réservée. Que le Seigneur nous bénisse maintenant, alors que nous nous levons, et que la personne qui est au piano nous donne la note, s'il vous plaît, pour... Revêt-toi du nom de Jésus. Maintenant, écoutez, il y a sans doute, il y a des nouveaux venus ici parmi nous au tabernacle ce matin. Je veux que vous leur serriez la main. Invitez-les chez vous, et quoi encore. Et faites en sorte que tous se sentent les bienvenus. Je voudrais que vous le fassiez tous. Et souvenez-vous que ce soir, le service commencera à 19h. Et à 19h30, je parlerai de la vision sur Patmos. Demain soir, si le Seigneur le veut, je parlerai du premier âge de l'Église, Éphèse, l'âge de l'Église. Maintenant, nous allons chanter « Revêt-toi du nom de Jésus », le cantique que nous chantons dans notre petit tabernacle en nous séparant. Que tout le monde chante maintenant. Très bien. Maintenant, avant de chanter la strophe suivante, je veux que vous, les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, les catholiques, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, vous tendiez la main à chacun autour de vous. Serrez la main de la personne devant vous, à côté de vous, derrière vous. Dites, pèlerin chrétien, mon ami, je suis content que vous soyez ici ce matin. Je suis content d'avoir une bonne communion avec vous autour des choses de Dieu. Je sais que nous avons passé des moments merveilleux. J'espère vous revoir ici ce soir, quelque chose comme ça, alors que vous serrez la main des gens devant vous, derrière vous, autour de vous. À ce soir, Fresneville, à ce soir. Maintenant, alors que nous courbons la tête,